Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Monaco. Le plus prestigieux, le plus célèbre, le plus...
Chiant.
Le plus monégasque cette année. C'était monégasque. Hein?
Oui.
Train-train, étoile froissée.
Oui, bah oui.
C'est Monaco.
Voilà.
Ça va mon petit Dino?
Ça va et toi mon petit Gigi?
Bah moi j'étais là lors de la dernière émission, donc les gens s'en foutent.
Bah moi j'étais là aussi, mais... mais sans connexion. Voilà.
Voilà.
Donc je remercie le dieu de la connexion qui me permet d'être parmi vous ce soir. Alias mon frère qui me permet d'être parmi vous ce soir. Et Shinji, nous ne sommes pas seuls.
Oui, nous recevons un invité qu'on a déjà reçu, tu te souviens Dino?
Ah là,
c'était
le
au
Brésil.
Brésil.
Le Brésil.
Brésil.
Le Brésil qui est à la fête d'ailleurs ce soir.
Le Brésil qui est à la fête.
Cette semaine, bah oui, parce que Tony Khanan a remporté
ah
les
oui,
enfants Max.
Oui, c'est
et
vrai.
Et là, on a un invité qui vient pas du Brésil, mais qui était là pendant l'émission du Brésil. Donc c'est un peu comme s'il était brésilien.
As-tu le même gros nez que Tony Khanan?
Oui, j'ai un gros.
Il répond oui, c'est beau.
Mais moins que Weber quand même. Hein.
Moins que Kubica?
Non.
C'est pas les mêmes catégories de nez.
Oui.
Il y en a certains qui sont plus pointus. Tony Khanan, il est dans la catégorie des patatoïdes.
Oui.
Mais c'est vrai que ça, pour ceux qui suivent notamment le sport auto américain, ça fait super plaisir.
Oui. J'ai pas pu regarder les 500 miles cette année, mais quand j'ai vu le vainqueur, j'étais content. Bon, du coup, je regardais pas l'acte parce que je connais le vainqueur, mais bon.
C'est dommage, il se passait beaucoup de choses pas mal. Ce week-end, c'était un beau... Les courses qu'on a eues, NASCAR, IndyCar, même Monaco, il y a eu de l'agitation, il y a eu des moments chiants.
Ah, oh, Monaco, de l'agitation... Heureusement qu'il y a eu Voldemort, parce que sinon... Et là, tout le monde a compris qui était Voldemort. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait que Voldemort est mexicain, maintenant.
Ouais.
Et donc, Shinji, comme nous parlons de dimanche,
oui.
Ce soir, c'est moi qui vais faire toutes les transitions.
Si tu veux.
Et donc, Shinji, nous étions dimanche, nous étions le 26 mai.
Oui.
Et comme t'as failli ne pas être là, toi aussi, j'avais préparé, j'avais commencé à regarder. C'est pour ça que je me rappelle de la date, mais je n'ai pas été plus loin. Et donc, Shinji, c'est l'heure de l'éphéméride de Shinji.
Bien sûr.
L'éphéméride inutile, bien évidemment.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Le chiffre de la semaine, c'est un chiffre à virgule, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. C'est 2209,54.
Je laisse Gaëtan se démerder parce qu'il m'a dit qu'on était trop fort, alors je lui laisse petite longueur d'avance.
Est-ce que c'est manufacturé?
pas réellement, non?
C'est un poids, est-ce que c'est une unité de mesure?
Oui.
En mètres?
Non.
En kilo?
Un poids?
Non.
En temps?
Non, mais c'est une distance.
En distance, donc en kilomètres, en mètres.
En kilomètres.
En kilomètres, donc c'est 2209
kilomètres. 209 kilomètres.
Virgule 54, voilà, exactement.
C'est une kilomètre parcourue, c'est un nombre de kilomètres parcourus en une seule fois ou
oui, oui, oui. Franchement, cette semaine, vous pouvez l'avoir, mais alors super facilement, si vous trouvez bien.
Donc 2209 km parcourus en une seule fois.
C'est la distance parcourue lors des 500 miles d'Indianapolis.
Bah non, parce qu'il parcourt 500 miles.
Et ça n'est pas 2209 mètres?
Non, je crois que le mile il est aux alentours de 1609, si je confonds pas avec d'autres 1000 marins, donc ça fait pas 2000 bornes.
Ça a été réalisé par un engin, une voiture, un avion,
oui,
enfin quelque chose
par
comme ça.
Un engin, par une voiture.
Une voiture.
Une seule fois?
En une seule fois, en un seul plein.
En une seule fois. En un seul plein, je pense pas.
Ah! En une seule fois, mais plusieurs pleins.
Sans doute. J'ai pas le détail, mais sans doute.
C'est par exemple la Google Car là qui parcourt le monde.
Oh, elle a parcouru plus que ça encore.
Oui, je pense aussi.
Non, mais... je dis, elle a fait 2200 km, elle a vu tout le monde.
2209,54,
les mecs qui pissent, les mecs qui font l'amour, les meurtres de chiens, tout.
Parce que je dis la Google Car, mais ils en ont fait une autre avec c'est peut-être pas Google. Ils ont payé un Français justement avec la voiture qui était totalement sponsorisée pour partir d'un point A et arriver à un point B sans forcément s'arrêter. C'était en trouvant des gens pour l'héberger. Ça.
C'est pas du tout ça.
Ok.
Ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'il puisse y avoir plusieurs pleins. C'est une distance totale parcourue par plusieurs personnes.
Alors, ils étaient plusieurs, en effet.
C'est une équipe,
mais sur le même engin.
Oui.
Donc c'est un engin qui peut accueillir plusieurs personnes en même temps.
Je suis pas que c'était en même temps. Moi, je pense même que c'était pas en même temps.
Donc en relais.
Oui.
Donc des gens en relais. Bah c'est des 24 heures du Mans, non ?
Oui.
Non, bah non.
Oui.
Ah, c'est 24 heures du Mans ?
Oui. Et c'était, donc c'est quoi ?
Bah c'est la victoire d'un pilote aux 24 heures du Mans. Les premiers 24 heures du Mans.
Oui !
Ouais !
Oui, parce oui, je l'ai. Je pouvais pas rater quand même cette date, puisqu'en effet, en plus, ils font des affiches 90 ans. En effet, le 16 mai 1923, les 90e édition, ou 90 ans, débutait la première édition des 24 heures du Mans. C'était au mois de mai. Et donc, elle a été remportée par André Lagache et René Léonard sur une Chenard et Walker. Et ils ont parcouru 2209,54 km à une vitesse moyenne de 92 km/h. La longueur du circuit, que c'est important au Mans, elle était à l'époque de 17,262 km.
Ouais, donc plus long que ce qu'il y a aujourd'hui.
Et ils ont eu 69 km d'avance sur le deuxième.
Ah ouais.
Soit à peu près 3-4 tours. Ce qui ouais. au Mans, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Et à l'époque, il y avait 33 équipages de 2 personnes. Eh oui, c'est l'anniversaire, c'était l'anniversaire des 24 heures du Mans.
Happy birthday to you.
C'est con parce que la seule fois, vous vous rendez compte, la seule fois où vous m'auriez posé la question, est-ce que ça a un rapport avec la F1? Je vous en dis oui.
Et j'ai failli te dire les 24 heures, mais je me suis dit non, c'est trop simple, putain. Je me rappelais moi la dynamique, putain.
Eh oui, parfois même les choses les plus simples.
Mais tu veux dire, Shindy, que c'était un super vroom day.
Oui,
c'était 500 miles, Charlotte, Monaco, et l'anniversaire,
et l'anniversaire des 24 heures du Mans.
Oh la vache. Il manquerait plus qu'il y ait eu des essais secrets, et alors là, c'était un week-end complet.
Alors, à noter, hein, j'ai regardé un peu les liens avec la F1, ils sont nombreux à avoir fait de la F1 et à avoir participé et gagné au Mans. Hein. J'ai oui. noté, alors, ceux qui avaient gagné en F1 et gagné au Mans, on trouve Maurice Trintignant en 54, Mike Hawtern en 55, Phil Hill, trois fois, entre 58 et 62, Lorenzo Bandini, Jochen Rindt, Bruce McLaren, Pedro Rodriguez, Jack Hicks, bien évidemment, ouais. Graham Hill, Didier Pironi, Jochen Mass en 89, Johnny Herbert en 91, et, si je me suis pas trompé, le dernier, c'est Michele Alboreto en 97. Pour des gens qui ont gagné un Grand Prix de F1. Parce que bien évidemment, il y a des tas de pilotes qui ont fait de la F1, qui n'ont jamais gagné en F1, mais qui ont gagné le Mans.
Je crois que de toute façon, l'une des dernières victoires Peugeot, je crois que c'était sur un équipage 100% F1 avec Marc Genet, Sarrazin.
Oui, on peut noter que Wurtz a gagné le Mans, Stefan Johansson a gagné oui. le Mans, Derek Warwick, Derek Bell, Helmut Marko, Jackie Oliver, Lucien Bianchi, Pescarolo, ah. Chris Amon, Derek Warwick, donc ils sont et je ne parle même pas des gens qui ont fait les deux, enfin qui n'ont pas gagné au Mans et qui ont fait de la F1 quand même, voire même qui ont gagné. Oui. Villeneuve a été au Mans. oui, faut se rappeler, Peugeot a embauché au moins une année Villeneuve.
Ah, les fous.
Donc la première édition donc s'était déroulée fin mai. Dès la deuxième, il fut décidé que l'épreuve passerait au deuxième week-end de juin. Hein. Et à l'époque, c'était en raison de la performance des phares. Et non, juin, on est un peu plus vers l'été. Le jour est un peu ouais. plus conséquent. Hein. Pendant très longtemps, c'est resté le deuxième week-end de juin. Il y a eu très peu de modifications. On compte juste en 68 où elle a été décalée au mois de septembre à cause des événements qu'il y avait eu au mois de mai.
Oh, ça aurait été drôle quand même. Les 24 heures du Mans avec des hippies au bord de la route et tout. Mmh. Moi, j'aurais adoré.
En 98, elle a été avancée au premier week-end de juin. Et non, parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde de football. Et depuis 98, c'est variable en fonction des années. C'est entre le deuxième ou troisième week-end de juin. Mais c'est relativement stable. À noter que de 1924 à 1928, les véhicules devaient effectuer un certain nombre de tours, 20 avec la capote fermée. C'était obligatoire.
Ah, déjà à l'époque, il fallait sortir couvert.
Alors côté performance, il faut savoir qu'on a atteint les 3000 km en 1931, les 4000 km en 1953 et les 5000 km en 1967. Et pour ce qui est de la moyenne...
Depuis 67, on a pas dépassé
non,
les 6000.
Je vais même te donner le record.
Ah, c'est dingue.
Alors, pareil au niveau des kilomètres heure moyen, bien non, en moyenne hein, sur les 24 heures, les 100 kilomètres heure de moyenne ont été atteints dès 1926 et les 200 kilomètres heure en 1966. Aujourd'hui, on a des courses d'à peu près 5000 km à une moyenne de 215 km. Ça peut être un peu moins, ça peut être 200 km, bien évidemment. Sur 24 heures, c'est aussi très variable en fonction de la météo. Et donc, le record actuel, il date de 2010. Il est à 5410 km 71. Ça fait 397 tours. À une moyenne de 225,446 km/h. Et c'est, non, c'est Audi.
Audi, merde.
En même temps,
hein.
C'est Audi.
9 fois sur 10, c'est Audi, alors.
Et c'était un record qui datait de 71, l'année, notamment, je crois, où Helmut Marko a gagné. Oui, bah oui. Ah. Et alors, le record de vitesse absolue sur la piste, il date de 1988. C'est Roger Dorchy qui a atteint 405 km/h dans les Unodières, bien évidemment. Ah. Avec une WMP 88 à moteur Peugeot. Alors bon, maintenant, le record a peu de chances d'être battu, hein, puisque maintenant, il y a des chicanes. Et alors sinon, en F1, ce 26 mai, alors, on peut noter deux décès majeurs. Le premier, c'est celui quand même d'Alberto Ascari, leur décès, je crois, en Monza, une semaine après son fameux accident où il était passé dans le port de Monaco, où il en était sorti indemne. Et aussi, en 2001, hein, c'est plus récent, Vittorio Brambilla, qui n'a qu'une victoire en F1. C'était au Grand Prix d'Autriche en 1975, mais elle est très particulière puisque il pleuvait énormément, hein, la course a été interrompue, il y a eu que la moitié des points, et il est sans doute le seul pilote à avoir gagné une course en marche arrière. Oui, ah, oh. c'est ce qui arrive hein, quand on part en tête à queue juste avant la ligne d'arrivée. Voilà.
Sympa.
qui était donc Vittorio Brambilla, qui était le frère de Ernesto Brambilla, et les deux étaient surnommés le gorille.
Oui. À la fois parce qu'ils avaient une tête de gorille et parce qu'ils étaient un peu rustres.
Comme Voldemort.
Oui, voilà.
Tout à fait, Shinji, comme tu sais qui.
Sinon, au niveau des Grands Prix, on peut noter le Grand Prix de Monaco 68, qui a vu le...
Il.
Alors, il, ça, c'est pas... Enfin, c'est un grand nom.
Victoire
c'est un
de
grand
nom
de Monaco. mais aussi, seul podium de Lucien Bianchi aussi.
Ah.
Qui marque d'ailleurs le dernier podium pour Cooper.
C'est le dernier podium pour les Bianchi en date. Ou est-ce que parce que je sais pas si c'est son grand-père
c'est son
ou
grand-oncle, enfin, lui qui est malheureusement décédé.
Son grand-père.
Ah d'accord.
Oui, voilà, c'est son grand-oncle
voilà,
qui est décédé.
Qui est décédé malheureusement. Bah pareil. Lui par contre, c'était peut-être plutôt lors des essais du Mans, je me souviens bien.
Ouais.
Son grand-père, je sais pas s'il avait fait un podium après ou pas. Je crois pas.
Ok, ok.
Et Jules, on l'attend.
Oui.
Il avait pas de chance. Sur son podium, il n'était pas à portée.
Ah oui.
C'est qui a dit ça? C'est Van der Garde qui a dit ça dans les déclarations au soir des qualifs. Il a dit l'année dernière j'ai fait le podium. C'est pas l'objectif cette année. Effectivement, Guido. Effectivement, tout à fait. Bien vu. T'es lucide. C'est bien.
Donc voilà, c'était tout pour cet éphémérite. C'est bien. Vous avez pas non plus été trop long quand même sur une question sur le Mans. Hein.
Ouais. Et Tant avait peur, il s'est dit, oh, ça va encore durer 3 heures, va se faire chier et tout. J'ai déjà dû subir le Grand Prix de Monaco.
Non, enfin, il s'est passé des choses.
Ouais.
Oui.
À la chicane du port.
Rien, c'est déjà quelque chose.
Alors Dino, on va passer à l'heure de gloire de
oui,
l'invité.
Oui, enfin, à la demi-heure, hein. Voir un petit quart d'heure, ça nous arrangerait.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors, Gaëtan, l'heure de gloire de l'invité, tu connais le concept, t'es rodé.
Tu as fermé la saison de 2012-2013, c'est pareil. Ça commence par le...
La dernière, je me sentais. Pour pas pour.
Bravo, le pour pas pour. Alors, rappelons, on fait le concept pour pas pour, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission depuis à peu près 2 ans. Donc, le pour pas pour, on va faire, je vais faire 10 propositions, à laquelle Gaëtan répondra par pour ou pas pour. Il n'a pas le droit de dire, même si on a strictement aucun moyen, on est tout aussi efficace que la FIA, aucun moyen de le sanctionner si dit.
Mais alors, quand même, on te mettra 10 places de pénalité à ton prochain Grand Prix.
Et donc, à la fin, il pourra revenir sur 3 sujets de son choix, plus un sujet qui est plus ou moins imposé.
Oui.
Alors, Gaëtan, quand tu es prêt, tu me dis « je suis prêt », et sachant que tu es prêt, moi, je me prépare au fait que tu es prêt, et on y va.
Je suis prêt à ce que tu sois prêt.
D'accord, je suis prêt moi aussi. Alors, pour ou pas pour, l'introduction du permis à points en Formule 1?
Pas pour.
Pour ou pas pour, acheter 2% de l'écurie Lotus F1 Team?
Oui, pour.
Pour ou pas pour, que Sébastien Ogier teste une voiture de Formule 1?
Pour.
Pour ou pas pour, le retour de Kamui Kobayashi chez Ferrari?
Pas pour.
Pour ou pas pour, le retour de Honda en tant que motoriste chez McLaren?
Pour.
Pour ou pas pour, Eric Boullier?
Pour.
Pour ou pas pour, que Mercedes fournisse ses V6 turbo à Williams l'année prochaine?
Alors ça, j'en ai rien à battre, pour.
Pour ou pas pour, aller de Monaco à Montréal, à la nage, avec pour seule ration vie de la poutine?
T'as 2 semaines, ça va?
Ouais, faisable, pour.
En ne mangeant que de la poutine, hein. Attention. Tu vas être ballonné. Pour ou pas pour, le Bahreïn qui inaugure la saison 2014?
Pas pour.
Et enfin, la question traditionnelle, pour ou pas pour, la F1 sur Canal+.
Pour.
Ah bah c'est t'es pour pas mal de choses ouais. En fait il y a trois choses pour lesquelles t'es pas pour.
C'est ça.
Mais avant cela on va t'interroger sur Canal Plus et d'abord on va t'inviter à te dénoncer. Es-tu abonné ou fais-tu comme les autres en train de regarder ça sur internet avec des sites illégaux en trichant en volant le pain de la bouche des gens qui travaillent chez Canal Plus. Alors
moi je suis abonné Canal. Et en fait j'ai
je regarde en streaming.
Non si justement je regarde en streaming mais je regarde mon streaming à travers le site de Canal parce que vu qu'on est j'ai mon papa la dernière fois j'avais raconté un peu c'est lui qui m'a initié à la F1 même si je suis plus trop en ce moment j'ai fait un petit deal avec lui qu'on prenait l'abonnement à deux donc ça faisait 20€ par mois chacun ou 15€ je sais plus il y avait une offre promotionnelle quand je l'ai pris du coup ça me divise les frais par deux et donc lui il est abonné Canal+, donc dans sa maison, et moi j'ai les codes d'accès pour l'avoir sur mon PC. Ouais. Et en fait j'ai relié mon PC avec un câble HDMI à la télé, et du coup je l'ai sur la télé, mes grands prix, en vraiment une qualité vraiment nickel.
Ah il est pas con mec, le câble HDMI, j'y ai pas pensé ça, merde.
Ah oui, ça coûte, là c'est un 5 mètres, et ça coûte, ça coûte rien.
Moi, je dirais à tout hasard, hein, mais j'en fais pas du tout un cas personnel. C'est vrai que tu mets le PC portable juste au-dessus de la Freebox, tu débranches l'HDMI de la Freebox, tu le mets sur le PC portable, tu mets les codes, ça marche très très bien. Je ne le dis pas parce que je le fais personnellement.
Non.
Pas du tout.
Mais l'avantage, je pense que je regarderais moins Canal et moins tout ce qu'ils proposent si j'avais pas ça parce que le système de replay, c'est vraiment génial quoi. C'est j'ai envie de regarder une émission, je la lance sur le PC, je branche la télé, voilà quoi. Donc au final, ça me permet, par exemple, je regarde des trucs que je regardais pas avant, le grand journal, le petit journal, même si c'était en clair, en fait, c'était juste les heures de diffusion qui m'allaient pas. Puis voilà, puis les émissions de F1 qui sont pas trop mal, ça va, voilà.
Mais c'est vrai que moi, ça fait deux semaines que j'expérimente, ça fait deux grands prix que j'expérimente, j'ai pas regardé les grands prix en direct, je les ai regardés avec un différé d'une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que c'est aussi cette liberté où on va se dire c'est pas grave, là je suis de mon repas de famille et puis j'irai mettre ça après et tu peux passer un peu plus de temps tout en c'est du différé donc tu t'as pas de risque de te faire spoiler par les gens derrière, moi pas vivre en direct sur les réseaux sociaux et compagnie, mais bon ça c'est pas trop grave et c'est vrai que c'est vraiment du confort.
C'est ça.
C'est ce qu'on oublie que quand même avec Canal Plus, ce qu'offre mine de rien Canal Plus avec l'abonnement, c'est pas que la Formule 1, c'est aussi tous ces équipements là.
C'est pour ça qu'en direct, on n'a pas eu ton tweet connard de Voldemort au début du Grand Prix.
Mais filme-moi, Philippe.
C'est pas si t'as qu'à dans ce truc.
Ah, mais moi je suis populiste, moi tu sais très bien, je dis, je crasse dans le sens vent. Maintenant, des fois je pense contre le vent.
Après l'avantage aussi que j'ai remarqué, c'est que deux jours après ou un jour après, si on loupe encore en plus la rediffusion, il y a possibilité avec Canal Plus à la demande, c'est un petit programme, de télécharger le Grand Prix sur son PC. Ça prend pour un Grand Prix qui dure environ 1h30, ça prend même pas 10 minutes. En tout cas chez moi ça prend même pas 10 minutes. Et là vous avez le Grand Prix en une très grande qualité, vous pouvez faire pause, voilà, vous avez le Grand Prix sur votre PC pendant 7 jours, je crois.
Alors ensuite, tu as le droit de revenir sur trois sujets de ton choix.
Alors, on va commencer par Bahreïn, c'est ça ?
Ouais, qui pourrait inaugurer la saison 2014, c'est en négociation, et c'est de plus en plus proche.
Encore une fois, il y a beaucoup d'invités qui l'évoquent, même beaucoup de gens beaucoup de fans qui l'évoquent dans les commentaires, c'est que... pourquoi changer des choses qui sont instaurées depuis des années? Enfin, c'est comme évoquer, comme dire qu'il y aurait plus de Grand Prix du Brésil, quoi. Pour moi, c'est pas pensable, quoi. C'est Melbourne, c'est comme Barcelone pour les essais. Maintenant, c'est rodé, les équipes s'y sont faites. J'aime bien un peu tout ça, je sais plus, j'arrive plus à retrouver mon mot, mais j'aime bien les petites habitudes, quoi, comme ça. Je vois pas quoi changer.
C'est justement dans les problèmes. Alors il y a deux arguments. D'abord, le premier, c'est que ça permettrait de faire des essais à Abu Dhabi juste avant le début de la saison, donc de résoudre une partie des problèmes liés aux pneus et aux essais. Et l'autre raison, c'est que de ce coup-là, le premier Grand Prix de la saison serait à un horaire plus abordable pour les Européens et pour les Américains, qui sont quand même le cœur de cible de la F1, que le Grand Prix d'Australie. Donc du coup, pour le premier Grand Prix, il y aurait une meilleure visibilité, une meilleure vitrine à Bahreïn à Melbourne. Maintenant, quiconque regarde les Grands Prix sait que généralement le Grand Prix de Melbourne est un poil plus intéressant que le Grand Prix de Bahreïn.
C'est ça aussi, quoi. Là, j'ai tendance à penser que il y a d'autres avantages, parce que si c'est tellement génial que ça, ils auraient pu y penser il y a quelques années, quoi. Pourquoi d'un coup y penser? C'est qu'il y a des avantages qu'ils auront et que nous on n'aurons pas, quoi. Voilà, quoi.
Bah après, ça a déjà été fait. La saison où ça avait été annulé, le Grand Prix de Bahreïn devait déjà être le Grand Prix de l'Ural.
Ah, okay, d'accord.
2 ans avant, je crois aussi, il avait déjà, c'est en 2010, le premier Grand Prix d'Alonso chez Ferrari qui l'avait remporté, c'était à Bahreïn.
Mais là, je sais plus si c'est cette année-là, c'était un choix volontaire de Melbourne. C'est pas Bahreïn
qui avait les jeux du Commonwealth,
voilà, au même moment, et ils voulaient pas que ça se télescope.
Mais après, ça peut aussi être un moyen de pression. On sait que depuis pas mal de temps, Bernie fait un peu pression sur Melbourne pour qu'ils organisent un Grand Prix de nuit. On a parlé de d'autres projets, Grand Prix à Sydney, je crois, à une époque, ou à Perth, je sais plus où. Et ça peut peut-être aussi être un moyen pour Bernie Ecclestone de dire, écoutez, ne mettez pas un Grand Prix à un horaire plus adapté au européen ou au nord-américain, donc un Grand Prix de nuit, nous, on va aller à Bahreïn. Peut-être aussi un moyen de faire pression pour que à Melbourne on fasse les investissements nécessaires pour organiser une course de nuit qui aurait beaucoup de cachet, admettons-le. Alors ensuite, est-ce que tu as un deuxième sujet sur lequel tu voudrais revenir?
Je les ai plus tous en tête. Je me rappelle du permis à points.
Après, je vais te les relire. L'introduction du permis à points en Formule 1, acheter 2% de l'écurie Lotus F1 Team, Sébastien Ogier pour tester une voiture de Formule 1, le retour de Kamui Kobayashi chez Ferrari, le retour de Honda en tant que touriste, Eric Boullier, le fait que Mercedes fournisse CV6 Turbo à Williams, et enfin aller de Monaco à Montréal à la nage avec de la poutine pour seule ration de survie. Et tu es court et tu es très courageux. Parce qu'il faut rappeler que la poutine, donc c'est une espèce de saucisse avec des frites et une sauce cheddar. Donc
moi, je ferai la méthode Red Bull, j'utiliserai les gaz pour me prononcer. Alors, Boullier, je l'aime bien. Ouais. Quand il a débarqué avec Lotus, je me suis dit, mais c'est quoi ce mec? Franchement, il y a des personnes comme ça que à chaque fois je me fais avoir, je me dis, mais ils ont une tête, je sais pas, que je les sens pas ou que je les sens pas capables, et au final, ça marche bien pour lui. Hein.
C'est le François Hollande de la F1.
C'est ça, c'est exactement ça.
Non mais c'est vrai, c'est physiquement exactement et tout, ça. C'est le mec, tu dis, il est un peu mou, il a pas de charisme. Et en fait, c'est un très bon team manager.
Mais j'ai l'impression de toutes ces interactions ou toutes ces interviews, tout est calculé, chaque mot sont pesés pour et c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que
c'est vrai qu'il dit super bien la phrase, il faut qu'on discute en commun.
Il arrête pas de la dire.
Ouais. Il faudrait bien joindre le droit la parole. je trouve qu'il fait du bon boulot, qu'il arrivait quand même dans une équipe dans un moment assez difficile pour le team. C'était quand ils ont été rachetés, qu'ils ont changé de nom, etc. Il me semble.
L'affaire de Singapour, donc c'est 2010, et c'est encore Renault à l'époque.
Ouais, c'est le Crashgate, c'est ça.
Ouais. Il y a déjà les négociations. Enfin, je crois que Jenny vient d'acheter ou va acheter.
Je trouve qu'il est courageux et que ça se voit bien pour lui. Je trouve que ça devient de plus en plus. C'est un team manager présent aussi parce qu'il parle français, etc. Mais je trouve que ça va de mieux en mieux pour lui et pour son team. Je vois pas pourquoi le changer, quoi.
C'est vrai qu'il fait partie de cette nouvelle génération de team manager avec notamment Christian Horner. Des mecs qui arrivent des séries inférieures, parce qu'on l'oublie, mais ce sont des gars qui arrivent du GP2 ou la World Series ou ce genre de choses, qui arrivent des séries inférieures, qui n'ont pas fait forcément beaucoup parler d'eux à leur début, mais qui font leur boulot et qui le font sacrément bien et qui aujourd'hui sont des patrons d'écurie extrêmement appréciés, extrêmement pour lesquels on accorde beaucoup de crédit.
Mais c'est une bonne idée, je trouve. C'est de la même façon qu'on fait monter les pilotes discipline inférieure, c'est pas idiot aussi d'avoir des managers, des techniciens, des ingénieurs qui, c'est vrai, parfois font toute leur carrière sur des disciplines à plus basse échelle, et tu te dis, ça pourrait être intéressant quand même de les voir en F1, voir ce qu'ils pourraient apporter.
Non, moi, je pensais, la dernière fois que j'étais venu dans le SAV, j'avais demandé donc d'où venait Dominicali, et vous m'aviez expliqué que c'était une promotion interne, et je trouve ça bien ce principe de remonter de filière un peu comme ça, de prouver ce qu'on vaut dans des catégories inférieures, et voilà quoi. De faire ses armes un peu, je trouve ça bien. J'aime bien aussi parce que quand il y a des problèmes, il sait le faire, mais dire qu'il va demander à la FIA de faire une investigation ou demander un éclaircissement. Voilà quoi. Il est pas si mou que ça.
Et enfin, est-ce que tu as un troisième thème sur lequel t'aimerais revenir?
Je pourrais dire que Kamui, ben maintenant qu'il est parti, ben ça serait, faut arrêter. Enfin, c'est comme Rubens, quoi. Faut arrêter de, d'essayer de le faire revenir. Enfin, Rubens, c'est lui qui essaie de se faire revenir.
Ouais, alors que là, quand même, Kobayashi, il a fait un essai au volant de la F10 Ferrari.
Après le permis à points, on l'a beaucoup évoqué ces derniers temps, mais comme dans les commentaires, enfin, je l'ai beaucoup lu dans les commentaires. C'est vrai que après, faut. Ça va être difficile, je pense. Ça va être difficile de trouver le juste milieu et le bon poids, la bon poids pour la bonne mesure. C'est, je ferais pour, parce que dans ce cas, ça ferait un éventail de toutes les infractions et il y aurait une peine pour chaque infraction. Mais après, si faudrait qu'il y ait des choses qui, après, c'est différent. Comment on peut discerner le mec qui rentre dans un autre pilote sans faire exprès en tentant un dépassement pour dépasser et celui-là qui tente un dépassement et tourne son volant pour être en avance au championnat. C'est difficile. Déjà là.
Surtout que ça, qu'en plus ce week-end, on a eu un exemple du fait que la FIA, quoi qu'il arrive aujourd'hui en l'état, n'est pas capable pour une même faute de mettre la même sanction. Enfin, on a Grosjean qui prend 10 places de pénalité sur le prochain Grand Prix pour son accrochage avec Ricciardo en course. Ce type d'accrochage, on en a déjà vu par le passé et ça n'a pas toujours été sanctionné par 10 places de pénalité.
Ah, souvent 5. Cette saison, c'est 5
ouais, voilà.
ou 3.
De la Grosjean, Schumacher. Pourquoi 10, d'où ça vient, quoi.
Oui, par le passé, il y a peut-être y avoir 10, mais en tout cas, cette année... on est déjà à 5 ou 6 grands prix. C'était 5, peut-être une fois 3, mais on est
fait
à
5. Pourquoi?
Schumacher avait fait la même, enfin, avait clairement loupé son point de freinage, je crois que c'était à Abu Dhabi, l'année dernière, où il avait monté sur Vergne,
Singapour. Les deux fois, c'est à Singapour. Les deux dernières éditions de Singapour.
Bah, ce crash m'a rappelé la même chose, et pourtant, je me rappelle pas que Schumacher avait pris 10 places, hein.
Il y a eu aussi Schumacher à Barcelone dernier sur Senna.
Aussi le même type, hein, c'est ça.
Oui, il avait d'ailleurs écopé de 5 places de pénalité, c'est qu'il n'avait pas bénéficié de la pole position à Monaco.
C'est ça.
La semaine suivante.
C'est d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, je voulais y revenir un peu plus tard, mais ouais, je trouve ça pas normal d'ailleurs.
Non, après c'est tout. T'as fait tes 3 sujets.
J'ai pas lu. J'ai vu l'article, mais j'ai pas lu. En fait, il était chez Red Bull et.
Oui, voilà, il était invité ce week-end. Okay, il a fait de la Porsche Super.
Il a fini devant Loeb. Il s'est qualifié. Il a fini devant Loeb. Ouais. Bah, on est obligé de faire un comparatif.
Toujours.
Alors ensuite, quelques petites questions. Quelle est l'actu de ces dernières semaines dont tu n'as rien eu à foutre, en dehors évidemment du fait que Mercedes puisse fournir son V6 turbo à Williams?
Bah enfin ça, le truc des moteurs, enfin en attendant que je recherche un truc, hein, parce que j'ai...
Mais ça peut être ça, hein.
Vas-y.
le truc des moteurs, c'est que c'est comme les transferts, quoi. C'est j'aime bien, mais vraiment à petite dose, quoi. Parce que tant que c'est pas signé, tant que c'est pas fait, on va encore en entendre parler, mais dans 30 articles, on a encore le temps de voir venir. Et du coup, pour le moment, j'en ai rien à foutre. Tant que c'est pas vérifié, tant que c'est qu'une rumeur, je m'en fous totalement, quoi. Ça voilà. Après, s'il doit y avoir une autre actu, bah non, c'est que tout. Ouais, les 2 200 € d'amende distribués ce week-end à Monaco, je trouve que. Ok, je l'ai même pas lu en fait, mais voilà, c'est pas, ça m'intéresse pas.
J'ai l'impression qu'il y a déjà eu plus. Alors après, ça fait peut-être écho au fait qu'on a appris juste avant que maintenant c'était les équipes qui payaient. Mais bon, en même temps, les pilotes sont pas forcément énormément à plaindre, donc je suis même pas sûr qu'ils payaient leurs amendes avant.
Rien qu'à lire le truc, c'est 2 200 € d'amende aux pilotes pour excès de vitesse dans la voie des stands et Alonso et Van der Garde. Mais du coup, je trouve que 2 200 € déjà, comparé à tout l'argent que ça brasse, c'est comme leur demander de payer un pourboire, quoi.
Oui.
Donc c'est l'importance, enfin l'impact de l'amende comparé à tout ce qu'ils touchent, ils s'en foutent, quoi. C'est plus pour l'image de l'équipe qu'ils évitent, mais...
Et surtout qu'en plus à Monaco, c'est des pénalités pour excès de vitesse dans la voie des stands. C'est pas vraiment surprenant dans la mesure à Monaco, la vitesse dans la voie des stands est à 60 week-end, là où généralement elle monte jusqu'à 100, je crois, lors des qualifs et lors de la course, sur les autres grands prix. Donc on a envie de dire que c'est 100 €, je crois, le kilomètre heure, donc ça fait 22 kilomètres heure dépassé au total par les pilotes. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Il n'y a pas eu un gros excès de test, quoi.
Puis voilà, quoi.
Alors ensuite, quelle est l'actualité en dehors des grands prix, en dehors des résultats et compagnie, aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Ça, j'avais pas réfléchi avant.
Alors, tu peux peut-être faire l'autre, si tu veux. Tu peux peut-être nous dire celle que tu n'aimerais pas lire, en réfléchissant en même temps à celle que tu aimerais lire.
Oh putain.
Ah ouais, il y a aussi ça là comme question. Merde, j'ai pas préparé.
Dans les prochaines semaines, je sais pas, peut-être la prolongation de, j'aimerais bien lire que les grands prix historiques sont prolongés mais de manière à très longue durée, c'est-à-dire Monaco, Spa, Monza,
100 ans.
Enfin, je sais pas, une bonne dizaine d'années quoi, vraiment pour prolonger jusqu'à ce que les infrastructures ne soient plus à même d'accueillir un tel événement quoi. Pour dire, oui. Voilà. Que tant que c'est entretenu et tant que ça propose.
Bah, tant qu'ils ont la validation de la FIA, ils sont garantis d'avoir un grand prix.
C'est ça. J'aimerais bien lire ça. Après celle que j'aimerais pas lire, ben c'est, je vais pas dire que c'est celle-là que j'aimerais pas lire. Celle que j'aimerais pas lire, c'est. C'est gros gens qui, admettons, dans deux ou trois grands prix, il n'arrive pas à sortir de cette spirale. J'aimerais pas vous lire que ils l'ont suspendu. Ils ont pris son permis, enfin je sais plus que son super permis. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, sa licence. Je trouverais ça dommage parce que au départ j'avais tendance à lui taper dessus aussi, mais à un moment faut reconnaître que à un moment il manque de chance quoi. C'est voilà. Et en plus tout c'est ce week-end j'avais misé, j'avais mis ma petite pièce sur lui en ayant vu les essais, j'avais mis ma pièce sur lui en espérant qu'il fasse de bonnes qualifs. Il se crache, j'espérais vraiment qu'il reparte, qu'il réussisse à repartir. Il est gêné, voilà, je trouve ça dommage.
Et surtout, en plus, ce week-end, globalement, on peut pas non plus lui reprocher grand-chose. C'est-à-dire que sur les accidents qu'il a eu lors des essais libres, il y a une fois, Lotus a expliqué qu'ils avaient une panne de courant, ce qui fait que les couvertures chauffantes de ses pneus s'étaient arrêtées de fonctionner un court laps de temps, donc du coup, ses pneus n'étaient pas à la température idéale. Ils lui ont demandé d'attaquer, il aurait attaqué et ça serait fini dans le mur. Il y a une autre fois, je crois que c'est... Il freine sur une bosse et pareil, ça se finit dans le mur. Donc, bon... On peut dire que effectivement ça lui arrive où et qu'il y a peut-être effectivement un problème. Maintenant globalement il y a pas eu grand chose de méchant, c'est plus une spirale négative.
Voilà. Puis encore qu'on dit spirale, c'est surtout ce week-end. Oui. Bon voilà. C'est clair que c'est un week-end à oublier. Ça, on va pas le remettre en cause. Mais par exemple lors du dernier Grand Prix où il a eu un souci, ça n'était pas de son problème. Et sur début de saison, il a été régulier. Ouais, c'est vraiment que là vraiment c'est vrai que là pour le coup.
C'est pour ça que je parle de malchance.
Sur un grand prix.
Et c'est justement moi ce qui m'a un peu agacé, ce sera pas mon draft mais ça a un écho avec mon futur draft, c'est tous les titres aujourd'hui et hier qui ont sorti en disant Eric Boullier va parler avec Grosjean. Ça c'est purement le titre, et je dis ça parce que je crois en plus d'ailleurs sur FanFR on a fait un titre de cette manière là, c'est typiquement le titre qui sort une déclaration complètement en dehors de son contexte, parce que quand on lit les déclarations d'Eric Boullier, il est pas en train de dire qu'il va faire la morale à Grosjean, qu'il va l'engueuler ou qu'il va lui dire qu'il se calme, il est juste en train de dire moi ce week-end j'estime que Grosjean n'a pas grand chose à se reprocher. Il sous-entend que pour lui Ricciardo est responsable de l'accident et compagnie, et que voilà, il va juste s'asseoir avec Grosjean pour parler avec lui, pour pas qu'il se laisse envahir par la spirale négative. Mais aucunement, enfin, ce que je regrette avec ce type de titre, c'est que très souvent ça peut être interprété comme il va parler avec lui parce qu'il faut que ça change. Non, il va juste parler avec lui, bah comme on espère que le patron d'équipe fait avec un pilote pour lui permettre de garder le moral et compagnie. Donc voilà, c'est ce titre qui laisse à sous-entendre que voilà, on menace un peu Grosjean, alors que dans les déclarations, Boullier ne menace pas du tout Grosjean.
Mais voilà, je trouve ouais, il manque beaucoup de malchance, il montre qu'il est rapide. À Monaco, je crois qu'il a jamais été aussi, je l'ai jamais vu aussi rapide que sur le circuit là.
En qualif, ça, bah alors pour, voilà, encore une fois ça s'est pas bien terminé, mais le peu de choses qu'on a vu, ça pouvait être super prometteur.
Je le voyais bien se battre pas pour la première ligne, je pense que c'était verrouillé, mais pour la deuxième ligne. Genre prendre la place à Weber, je pense que c'était
ça. Ouais, en plus, sincèrement, des mecs qui sont cartonnés à Monaco, il y en a eu, et pas n'importe qui. Enfin, on a quand même eu Hamilton qui s'est gaufré lors d'une qualif, on a Alonso qui s'est gaufré lors d'un essai libre 3, ce qui n'a pas pu participer à la qualif.
Et puis Massa, hein,
voilà, on a Massa Sken plusieurs fois. Enfin voilà, à Monaco, c'est pas être un médiocre dans le mur. Au contraire, on a envie de dire, à Monaco, quand tu te fous dans le mur, c'est que justement, c'est que t'es peut-être même un peu trop confiant dans ton potentiel, et c'est peut-être ce qu'a gagné Grosjean ce week-end, c'est que effectivement, ce week-end, c'était au regard des essais qu'il avait fait, c'était un peu le rival des Mercedes.
Ah oui, oui.
Avec une Lotus qui n'a pas montré grand chose non plus ce week-end.
Mais comment dire, je pense aussi qu'il paye, il a maintenant une mauvaise image aux yeux des commissaires. Ah bah, vraiment, mais il n'y a pas d'autre solution quoi. C'est
le fait qu'il ait 10 places. C'est pas 5.
Mais est-ce que c'est pas possible à une équipe de faire un recours à la FIA pour montrer que l'incohérence de la peine comparée à la faute.
C'est si c'était possible, ça fait longtemps qu'il y en aurait eu.
Parce que je trouve c'est la première fois où ça arrive à me choquer, où je trouve une peine vraiment trop lourde. 10 places quand même, enfin en plus ils décident pas ça tout de suite. Si j'ai vu ça donc après la course et je trouve ça.
En plus sur le procès verbal, je crois que il y a rien qui explique. Si au moins dans le procès verbal des commissaires, ils disaient oui, voilà, il y a des circonstances aggravantes qui font que on a mis ça. Mais non, ils ont mis il a percuté Ricciardo à tel virage.
C'est ça qui est dingue.
Ouais,
c'est
aujourd'hui, pourquoi 10 alors que les autres ils ont eu 5.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui on a la Formule 1 qui est en train de nous dire qu'ils vont introduire en 2014 un permis à points avec un barème, telle faute devra attendre points et panique. Alors que cette année on a tout simplement l'impression que c'est vrai que les commissaires changent, mais ils devraient avoir une base commune, ils devraient avoir un fichier Word tout simple, voilà, avec écrit le mec où dans le mur il provoque l'abandon d'un de ses camarades de course, et ben il prend 5 places ou il prend 10 places. Et les mecs ont le même document du Grand Prix d'Australie au Grand Prix du Brésil, et entre ces deux Grands Prix, à chaque fois que se présente ce cas-là, à chaque fois qu'est statué ce cas-là, le mec voit la pénalité qui est indiquée sur ce document Word que je te fais en 5 minutes. Mais ça, visiblement, la FIA, ils vont nous pondre un truc super compliqué et compagnie, mais ils commencent déjà pas par appliquer un truc tout simple cette année qui aurait à peu près le même effet, qui donnerait un peu de cohérence.
Et plus ce sera compliqué, plus il y aura des failles, plus les pilotes les utiliseront et les écuries l'utiliseront, et plus il y aura de la polémique, quoi. Pour moi, c'est pas beau de. Je trouve pas ça. Enfin, les failles dans le règlement technique, je trouve que c'est malin et que voilà, c'est malin parce que elles sont tellement minces et fines ces failles que faut aller les chercher vraiment et les tenter. Ça se tente. Mais des failles comme ça qui, pour moi, ça remet en cause l'éthique du sport, quoi. C'est à la limite de la triche pour moi. Utiliser des failles comme ça, c'est pas du sport. Voilà.
Et donc pour finir, est-ce que tu as un Drive of the Weekend, un carton rouge pour attribuer à un pilote, une écurie, à Bernie Ecclestone, à la FIA, à qui tu veux?
ça me fait chier quand même de taper sur lui, mais je vais mettre un Drive Through à Villeneuve, ouais. Parce que c'est pas tant sur ce Grand Prix, mais c'est depuis que je regarde les Grands Prix sur Canal, il me gave un peu à être tant grincheux. C'est grincheux. C'est grincheux ce type. Il est jamais d'accord, jamais content. Ils en viennent même à s'engueuler ou à se disputer sur, enfin à ne pas. C'est bien justement qu'ils soient pas d'accord. Que je sais plus comment il s'appelle l'autre commentateur qui se laisse pas faire justement.
Julien Febro,
il se laisse pas faire et je trouve ça bien. Encore ce week-end, il a fait ah non, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il y a ça et voilà. Mais c'est surtout en fait ce qui me dérange dans les commentaires. Bon, il a le droit d'avoir un avis, mais c'est qu'il n'y a pas un Grand Prix depuis le début de la saison où il a pas dit que c'est une course d'endurance, que les pilotes ne sont pas à leur maximum, etc. En gros, j'ai l'impression que le commandateur me dit Hey, tu regardes de la merde. Alors, à force, ça me gave parce que, ok, peut-être que ça pourrait être mieux, mais en attendant, on a que ça, donc autant faire avec ce qu'on a et arrêter de rabâcher un truc qui sera pas changé. Donc, autant attendre et voilà, et se contenter de ce qu'on a. Je trouve que ça sert à rien de rabâcher ça, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il rabâche et qu'il radote, et voilà. C'était mon Drive Through Villeneuve.
Moi, je dis rien parce que je sens que dans 15 jours, 3 semaines, quand on sera au SAV du Grand Prix du Canada, je dis rien, mais on essaie d'arranger ça, mais je sens qu'il y aura des supporters de Villeneuve. C'est en fait, notre prochain invité, si ça a réussi à se faire, il sera québécois, et à chaque fois qu'on dit sur Villeneuve, il m'envoie un mail derrière. Donc, on le laissera défendre.
Non, il rabâche trop pour moi.
Et toi, Shinji, tu as un drive-through?
Oui, alors au début je voulais parler de ce sujet qui était un peu tombé dessus là d'un coup ce week-end. Hein, c'est bien sûr l'histoire. c'est bien évidemment l'histoire des pigeons kamikazes monégasques. Il y en a eu deux quand même.
Oui.
Il y en a eu deux. Il y a une magnifique vidéo de GP2 où c'est au ralenti et le pigeon il fait un salto arrière pour éviter la voiture. C'est
vrai que tu me l'envoies cette vidéo.
Mais j'ai décidé d'être plus léger et de parler de ces histoires d'essais. Hein? Alors, je vais être gentil. Je ne vais pas le donner à un en particulier parce qu'on voit que c'est un peu en cours et entre guillemets, quand je dis que je ne le donne à personne, je le donne en fait un peu à tout le monde. Hein? Hein, entre la FIA qui visiblement signe des trucs avec Pirelli, des trucs qui sont ouvertement en contradiction avec le règlement. Pirelli qui visiblement a une drôle de façon d'avertir les autres équipes. de loin, et Mercedes, qui fait la posture, vous savez, du gars qui sifflote. Vous savez, c'est le gars
qui... Les mains dans les poches.
Qui est main dans les poches, qui sifflote. Mais... Quoi? On a utilisé la voiture de cette année? Bon, je sais pas, on nous a rien dit.
On a laissé le camion à Barcelone. On a pas monté le motorhome, c'est sûr.
C'est sûr.
C'est un oubli.
Hein? Quoi? On n'a pas prévenu les autres équipes? Mais c'était pas nous à faire. Non, c'est juste n'importe quoi. Alors, en plus, enfin, il y a quand même des gens quelque part hein, dans ce lot, hein, Pirelli Mercedes, qui se sont dit, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui s'est dit, on va faire le truc, mais on va le cacher, parce qu'on s'est bien connu. La F1, c'est pas du tout un petit microcosme. Si on le cache, personne ne le saura.
Et vous savez comment ça a été révélé? Lors du briefing des pilotes.
Oh,
c'est tout simplement, visiblement, lors des discussions, il y a des pilotes qui, en distance, je pense, avec Lewis et avec Rosberg, ils ont découvert que...
Quoi? Vous étiez pas au courant? Ils avaient fait on a roulé pour Pirelli?
Alors, Lewis, avec Rosco, t'as fait le marathon? Ah non, j'ai fait des essais.
Oh non, j'étais à Barcelone, j'avais des essais à faire. Des essais. Non, je veux dire, j'avais la vaisselle à faire à Barcelone. Tu sais, Nicole, elle fait un peu... C'était le bordel, et donc j'avais de la vaisselle à faire. Tu vois, c'est pas à cause de ça.
C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que c'est n'importe quoi, mais que les conséquences de ça, voilà. Parfois, il y a des patates chaudes, vous savez, en F1. Vous savez, ces trucs-là, ces beaux petits scandales où va sans doute y avoir de la politique qui rentre dedans, où va y avoir une super décision, alors soit qui ne satisfera personne, parce que soit ça sera super, super sévère, soit personne ne va rien avoir, donc tout le monde fera la gueule, hein. Et voilà.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit Button, hein. C'est-à-dire que pour lui, Button, il pense que Mercedes va juste recevoir une tape sur la main et qu'il y aura rien derrière.
Mais même si...
De l'autre côté, il y en a qui disent, non, mais vous vous rendez compte, s'il y a ça, Mercedes, ils vont dire au revoir à la F1. Tu vois, c'est le grand écart.
C'est ça, en plus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de politique derrière, quoi. Quand on voit Helmut Marko qui dit, ils ont gagné une seconde entre Monaco et l'Espagne. Non, arrête, Helmut, arrête.
Tu bouffes pas, t'es venu à Monaco. Tout le monde savait qu'il serait bon à Monaco.
C'est d'ailleurs, tous les pilotes se sont empressés de le dire, soit Weber, Vettel, Button, ils ont dit non mais la victoire de Rosberg, on en parlait déjà avant que ça éclate. Oui. Bon voilà, ça change rien, c'est sur la suite de la saison qu'on va voir si il y a plus de victoires à Mercedes, ça risque de faire gazer.
On a une belle patate chaude là, un truc bien chiant qu'on va devoir se taper pendant plusieurs semaines si ça se passe.
Moi j'imagine bien une disqualification au championnat constructeur, quoi. Moi je vois bien ça. Après au pilote, est-ce qu'on peut incriminer un pilote même si sa voiture a évolué de manière non conforme, on peut pas incriminer un pilote pour moi.
Je pense que c'est pas les pilotes qui risquent le plus, c'est plutôt l'équipe. Et puis alors Pirelli, alors c'est pareil, ils disent oui, il y aura des sanctions contre Pirelli. Bah ouais, mais vous allez pas disqualifier Pirelli ou leur retirer des points.
Pirelli, vous avez plus le droit de fournir les pneus à la F1 pendant 3 ans.
Mais là encore, alors qu'on parle du renouvellement, alors ça tombe en plus à un beau moment hein, cette affaire-là. Alors qu'on parle du renouvellement de Pirelli, il y a une actu qui dit quand même que voilà Pirelli ils attendent, mais il y a un moment s'ils ont rien, c'est peut-être eux qui vont se barrer. Ben voilà, ça peut avoir de grosses conséquences.
Mais aussi, je pense que au sein même de la FIA, j'ai lu dans un des articles qu'ils ont envoyé un émissaire pour surveiller ces essais. On sait qu'ils ont envoyé quelqu'un, donc ils étaient au courant.
Ah bah, s'ils ont envoyé un émissaire, alors, oui, ils étaient au courant.
Mais pour moi, le cœur du problème, c'est encore une fois la FIA qui est incapable d'imposer des choses. D'abord, d'être crédible dans ses décisions ou dans ce qu'elle fait. Enfin là, ils n'ont aucune crédibilité. Enfin, on dit qu'ils ont envoyé un mec, oui, on nous en a parlé, mais on a prévu qu'il fallait pas que ça se fasse comme ça et compagnie, qu'il fallait que toutes les équipes se voient offrir la même chance. Mais en fait, le mec a été quand même envoyé à Barcelone pour surveiller les essais. Il a vu qu'avec Mercedes, FIA s'est pas dit, il y a que Mercedes, bon, on fait confiance à Pirelli, ils ont demandé à tout le monde, on va pas aller vérifier, ça serait le boulot de la FIA que de vérifier, que d'aller voir Pirelli, disant, bon, il y a que Mercedes, est-ce que vous allez demander aux autres équipes d'aller vérifier auprès des autres équipes? C'est leur boulot, merde, c'est quand même eux qui organisent le championnat et le sport automobile mondial, ça devrait être leur taf, et ça non. Et l'autre manière dont on voit que la FIA est inefficace depuis des années, c'est que, on le voit, ils ont un contrat avec un manufacturier, dans le contrat, il est stipulé que le manufacturier a le droit de faire ce type d'essai. Et derrière, ça les gêne pas du tout, que ça entrave complètement avec les règles interdisant les essais en course saison. Ils ont même pas songé à se dire, ce serait peut-être bien qu'on se pose la question, et compagnie. Non, ça fait 3 ans que cette clause, elle existe, et que la FIA ne branle que dalle. Ils en ont rien à foutre. Donc, à un moment donné, c'est aussi la passivité de la FIA dans ses décisions qui fait qu'on en arrive dans ces situations-là. Ça n'excuse pas les potentiels problèmes causés par Pirelli et par Mercedes, mais
voilà, la FIA pose le terreau quand même à ce genre de comportement en laissant un petit peu faire tout le monde.
Mais c'est surtout veulent, dans moi ce qui m'a choqué le plus, c'est que dans le contrat avec Pirelli, c'est marqué si le besoin se sent, si on sent qu'il y a un besoin de faire ces essais, on le fait. C'est totalement imprécis. C'est comment
très vague, ouais.
C'est
Surtout que eux prétendent que c'est pas par rapport au fameux changement de pneus qu'il va y avoir au Canada, mais pour 2014.
Ce qui change pas la donne, hein, plutôt ça veut dire que grosso modo ça avantagerait Mercedes. Si ça l'avantage pas pour cette année, ça l'avantagera pour plus tard. Et même comme l'a dit, je crois que c'est Horner qui a expliqué, il a dit même s'il ne savait rien des pneus, parce que on se doute bien que Pirelli n'a rien dit sur les pneus et compagnie. Ça n'empêche pas que Mercedes peut éventuellement avoir des données, collecter des données, et qu'en plus même pour eux dans leur utilisation de la voiture sur des réglages de choses, ils apprennent à connaître. Ils ont 1000 km de plus que les autres de roulage qui font qu'ils connaissent un peu mieux leur voiture, sans même tenir compte des pneus, donc c'est forcément un avantage pour
1000
eux. 1000
km, ça représente, j'ai lu aussi 1000 km.
C'est 3 courses,
voilà, c'est, je trouve.
Enfin, 3 courses, c'est l'équivalent d'un Grand Prix total.
C'est énorme, quoi, c'est énorme. Après,
c'est pas mal, ouais.
quand j'ai lu ce truc de contrat, j'ai eu l'impression que les mecs, quand ils ont rédigé ça la va-vite, comme dans les films, tu sais, ils étaient en train de bouffer comme des porcs, en train de boire un coup, ouais, on met ça la va-vite, allez, on signe, hop là.
Bah, c'est ça, bon. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté, enfin, voilà, ils ont fait une clause, sans doute, et ça a été discuté par des gens qui ne connaissent pas le règlement. Ils sont dit, ouais, tiens, on va signer ça et tout. Bah ouais, mais... Voilà, faudrait connaître un peu le règlement quand même avant de signer des trucs avec des fournisseurs et des équipes.
C'est ça, c'est le côté business.
Mais c'est là où on revient à l'incapacité de la FIA à gérer ce championnat. C'est-à-dire que ils signent un partenariat avec Pirelli, ils leur proposent cette clause-là, et derrière, ils se disent pas, il y a un peu d'intérêt entre cette clause-là et nos règlements. Non, ça leur vient pas à l'aide. Enfin, moi, ça m'hallucine complètement, quoi, que y ait pas un mec chez la FIA qui dise, les gars, il y a un problème.
S'il l'applique,
on s'expose à quelque chose.
Tu vas voir, ça va finir. Allez, open bar, 1000 km pour chaque équipe, sauf Mercedes.
Mais sincèrement, bah, de toute façon, on sent clairement que c'est ce que demande, par exemple, aujourd'hui Ferrari. Ferrari, disent nous, on veut bien avoir 1000 km, et ça va sans doute se régler par, lors des essais jeunes pilotes, aura une journée en plus, qui sera réservée à toutes les équipes.
Sauf
tout
Mercedes.
Le monde pourra venir avec ses deux voitures, sauf Mercedes, avec ses pilotes Hulair, et tout le monde utilisera les pneus. Ou alors, lors des essais jeunes pilotes, tout le monde aura les pneus Pirelli 2014, sauf Mercedes. Enfin voilà, ils vont réussir à trouver un promis, parce qu'en plus, pas se cacher non plus derrière quand il y a des gens qui disent que Mercedes risque de partir, c'est vrai, et donc c'est tellement vrai que si Mercedes était condamné, il risquerait de partir, que finalement Mercedes ne sera pas condamné, que Mercedes ne risque pas grand chose, ils ne vont pas être du championnat, on ne leur retirera pas de points, voilà, on va juste essayer de compenser auprès des autres en organisant une séance d'essai. Ou
mais il y aura toujours le doute du est-ce que, parce que y a, je sais plus dans quel article, mais des pourcentages qui dit alors 10% des produits qu'il y a cette année, plus 90% de ce qu'il y aura l'année prochaine. C'est vu que ça a été tellement mal fait, qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien Milborne, qu'est-ce que voilà, tout ça, c'est peut-être que voyant la patate super chaude arriver.
Ah mais la FIA, le procès verbal complet, c'est là qu'ils sortent le truc. Oui, on était au courant, on a tout, mais c'est pas bien.
C'est ça, je sais pas, moi je suis...
Mais c'est ça le truc, c'est que ils nous ont demandé, on leur a dit non, on leur a fait confiance.
Mais non, ça vous a pas étonné qu'à un moment donné, Pirelli et compagnie se donnent rendez-vous, enfin vous suivez pas les équipes. C'est quand même un organisme qui chaque été ferme les usines pendant 15 jours des écuries, qui met en place des moyens techniques, qui paye des gens pour surveiller les usines, pour s'assurer que les usines sont bien fermées pendant 15 jours.
Ah mais moi ça j'y crois pas, hein.
Et ces mecs-là, quand on vient leur demander, donc, est-ce qu'il y aurait pas possibilité de faire des essais avec Mercedes et compagnie, ces mecs-là, ils ont pas l'idée de se dire, on va quand même vérifier, on va quand même s'assurer qu'ils font tout dans les règles.
Juste...
Eh ben non, c'est formidable.
Avant ça, je doutais pour moi, pour les usines, je me disais, c'est quand même gros que... Qui est pas des pots de vin, etc., sans parler du, enfin, sans...
Non, il y a pas de pots de vin. Ils ont juste, pendant 15 jours, des agents d'entretien extrêmement bien formés.
Mais voilà, quoi. Maintenant qu'on voit qu'une telle bourde, parce que, pour une fois, c'est pas une équipe qui a triché, etc. Là, la FIA, elle est prise dedans. Du coup, maintenant, on voit par A plus B qu'elle est incompétente et qu'elle fait mal son boulot. Alors, ça veut dire, s'il y a eu une faille comme ça, c'est qu'il y en a d'autres. Et voilà quoi, donc c'est dommage. C'est dommage parce que ça remet en cause.
La F1 n'est plus gérée par la FIA, la F1 est gérée par les écuries et par Bernie Ecclestone. Et c'est ce qui explose aujourd'hui à la gueule de tout le monde. Ça fait des mois et des mois que la FIA dans les accords corps ne négocie plus rien et se contente juste de négocier avec Bernie Ecclestone un petit pourboire pour pouvoir créer un super siège de la FIA. Bia et compagnie, et ça fait facilement 3-4 ans que la FIA n'existe plus en Formule 1. Voilà, c'est quelque chose qui est très lointain. Enfin, le coup du permis à points, c'est encore un truc pour nous faire croire qu'ils sont là, qu'ils ont des idées et compagnie, mais non, vous avez pas d'idées. Enfin, voilà, ils existent plus en Formule 1, ils ont plus aucun pouvoir en Formule 1. Et on le voit encore, enfin, ces essais-là, pourquoi est-ce qu'on faisait ces essais-là? Enfin, c'est quand même formidable d'entendre, Christian Horner, j'oublie souvent son nom, lui. Mais c'est quand même formidable d'entendre Christian Horner nous dire, bah ouais, mais on n'a jamais réussi à s'entendre, c'est pour ça que, on est arrivé à un compromis pour Pirelli utilise la Renault d'il y a 2 ans et compagnie, parce qu'on ne s'était pas entendu. Mais oui, mais c'est ça le problème, vous ne vous entendez pas. Donc, maintenant, vous venez vous plaindre que l'autre, il a fait ça. Et derrière, tout le monde se défend en disant, ah bah oui, nous, à leur place, on avait su, on aurait fait pareil.
Et puis, sur ça, t'as des propos, genre de Vijay Mallya. Oh, c'était bien quand même quand il y avait la Fota. On parlait tous d'une voix et tout. Bah ouais, mais c'est vous qui avez tout détruit. Hein.
Mais oui.
Alors, faut quand même s'attendre à. Moi, je reste convaincu qu'il faut s'attendre à d'autres rebondissements, parce que je reste quand même sur une déclaration de Paul Embury qui a sous-entendu plus ou moins fortement qu'ils avaient déjà fait ça. Avec quelle équipe c'est ce qu'il faudra s'interroger. Si c'est avec une équipe genre Caterham,
on s'en fout. Acharté, si c'est Acharté, bon, très bien. Parfait.
Si c'est Lotus,
c'est
si c'est Forvia, qui sont deux équipes qui utilisent bien leur gomme cette année, là, les équipes vont dire, attendez, venez pas nous dire que ça avantage personne, les Lotus, les Force India, au niveau des pneus, leurs petits essais là, leurs 1000 km, visiblement, ça leur a été utile. Donc, Mercedes, l'année prochaine, ils utilisent les d'autres pneus.
Dino, si c'est Ferrari, alors là, la webosphère de la F1.
Ah, c'est mort.
Parce qu'on sait très bien que Ferrari, quand ils font la même connerie que les autres, eux, il y a 10 fois plus d'articles.
Ah oui, bah alors là.
Parce qu'on sait jamais, hein. Il y en a qui ont accusé, rien ne dit qu'ils en ont pas profité dans le passé.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des équipes qui disent, bah nous on n'était pas au courant, Force India, il y a Lotus aussi, je crois qu'il l'a dit. Et ces équipes-là, elles n'ont pas porté réclamation. Les deux équipes qui ont porté réclamation, c'est Ferrari et Red Bull, qui, on pense le comprendre, étaient déjà un petit peu quand même au courant que c'était possible, qui étaient en tout cas bien informés sur le sujet, mieux informés que d'autres. Et il y en a qui sont complètement silencieuses. Lotus, qui est très silencieuse, McLaren, qui ne dit absolument rien. Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ce type d'affaires nous amène à être extrêmement suspicieux envers tout le monde, même envers Red Bull et Ferrari, qui aujourd'hui portent réclamation, mais dont ça n'étonnerait personne qu'on apprenne dans quelques semaines que eux aussi ils ont fait des essais l'an dernier et qu'ils ont rien dit. Voilà, c'est juste pathétique, quoi. C'est ça qui nuit à la Formule 1. C'est pas les pneus Pirelli. Là, on est vraiment dans le cœur de quelque chose que depuis le début de l'année, les gens disent, ah, les pneus Pirelli qui tiennent pas la route et tout, ça nuit à l'image de la F1. Non, qui nuit vraiment à l'image de la F1, ce sont ces essais-là, ce sont ces scandales-là. C'est ça qui dénature la Formule 1. Les pneus Pirelli, qui tiennent ou qui tiennent pas, il y a toujours eu cette donne-là à un moment donné, que ce soit les pneus, le moteur, l'embrayage, tout ce que vous voulez, il y a toujours eu ce critère-là à un moment donné dans une saison. Voilà, c'est dans l'histoire des sports mécaniques. Par contre, ce type d'affaires là, ça par contre ça porte atteinte aux valeurs sportives, ça porte atteinte à ce qui est véritablement notre sport. Et ça c'est une honte.
Dino, as-tu un drive-thru?
Oui.
Parce qu'on n'est que sur mon drive-thru, rappelons-le.
Alors moi ce sera un petit drive-thru. C'est une thématique spéciale, les médias, j'en ai marre. Je rédige de moins en moins sur Fan F1 et donc du coup je suis de plus en plus critique sur les médias. C'est un drive-thru à l'intention de monsieur Yann Parks, dont le nom ne vous dit sans doute peut-être rien, mais qui est un correspondant de la Press Association sur les Grands Prix, et qui a eu cette magnifique idée, Sken, de poser la question à Lewis Hamilton et Adrian Sutil, de demander à Adrian Sutil quelle était où en étaient ses relations avec Lewis Hamilton, ce à quoi Adrian Sutil a répondu que... Enfin non, il a posé la question à Hamilton, qui a répondu qu'il fallait attendre que les conditions soient réunies pour qu'ils redeviennent amis et compagnie, qu'il ferait tout et compagnie, et Sutil qui a dit bah oui, pour le moment il y a rien de changé, voilà, et tout ça pour faire un article après où il y a écrit ah là là, et toujours c'est toujours le froid entre Hamilton et Sutil. Oui, mais c'est toi qui poses la question, c'est toi qui crée le sujet, c'est encore une fois, voilà, on repose la même question à Sutil, on lui a posé en début de saison, on l'a posé 3-4 fois l'an dernier, et à chaque fois Sutil répond la même chose, à chaque fois Hamilton répond la même chose. Quel est l'intérêt d'avoir une accréditation pour aller dans le paddock, pour poser ce type de question à la con dont tu sais déjà la
pin-up.
Oui, enfin voilà.
Et le buffet, hein. Mais à un moment, je pense que c'est OK, c'est le prestige, c'est l'élite du sport mécanique, etc. C'est l'élite de la presse. Enfin voilà, on a l'impression que c'est toute l'excellence, mais ça reste des êtres humains comme tout le monde, quoi. Le mec, il a pas envie de faire son job. Il se dit, il a un quota, je dois faire 3 articles. Hop, je me dépêche de les faire. Comme ça, je suis tranquille et je profite du pays, quoi. Moi, je pense que c'est clairement
mais
ça.
Mais c'est, C'est d'ailleurs ce qui est significatif, c'est que cette question-là qui est posée quand même en conférence de presse, très souvent c'est repris dans des articles derrière. Il y a finalement eu très peu d'articles sur les déclarations de Thiel parce que, bah voilà, le mec il a posé une question, ça va intéresser personne parce que les déclarations elles ont déjà été reprises 3-4 fois dans la même teneur et compagnie. Enfin voilà, moi c'est juste, mais tu perds ton temps mon gars quoi. Enfin, passe ton temps à autre chose, passe ta crédibilité à faire autre chose quoi. Ou alors donne-moi ton passe. Moi je veux bien y aller. On sera deux de fan F1 sur les Grands Prix, c'est parfait.
Très bien pour cette heure de l'invité. On va passer bien évidemment.
Qui a duré une heure.
Ouais, facile.
Dont trois quarts d'heure, pas par l'invité, mais par Mercedes.
Passons à la course et passons au qualif. Qualif, il y a eu de la. En même temps, il y en a.
Pareil.
Finalement, il y en a pas eu tant que ça. Je veux dire, par rapport à toute la pluie qu'il y a en ce moment en France, ils ont quand même été plutôt épargnés ce week-end en F1.
J'aurais bien aimé un peu plus ce week-end.
Monaco, c'est pas suffisamment dur, il faut de la flotte.
Ouais.
Ah ouais, justement.
Et donc, en Q1, pour nos guignols, bon, on va quand même exclure Felipe Massa, puisqu'il n'a pas pu rouler, ses ingénieurs n'ont pas réussi à reconstruire la formule.
Je comprends pas son double crash, d'ailleurs.
Parce que le premier, ils ont dit c'est de sa faute, le deuxième, c'est un problème de la voiture.
De suspension. Et le premier, c'est lui qui aurait freiné sur une bosse. Mais c'est vraiment la copie carbone, quoi.
Ouais, ouais.
Et moi, c'est la première fois que je voyais un mec se foutre au tag comme ça à Monaco. Taper tout droit dans le mur à cet endroit-là puis finir à Sainte-Dévote.
Ouais, c'est vrai que c'est.
J'ai beau chercher, je trouve pas. Et deux fois dans le week-end, alors franchement faire.
Moi, ça m'a vraiment impressionné. Comme tu dis, c'était copie conforme quoi. C'était.
Et alors, je vais être totalement honnête. Il y a un moment donné quand même, je me suis dit, est-ce qu'Alonso va rentrer au centre?
J'y ai pensé aussi.
C'est plus fort que moi. Je me suis dit, attends, là, c'est quand même trop gros. Le mec se casse la gueule deux fois pareil. Est-ce qu'il n'y a pas encore un Trafalgar derrière?
C'était aussi, et en plus, les commentateurs venaient dire, oui, une safety car ici est très importante. On voit qu'il y a les premiers qui s'arrêtent. Alonso s'était pas encore arrêté. Lui qui se crache. Et là, on voit safety car. Puis ils ont enlevé tout de suite. Au final, super les commissaires, ils ont enlevé. Et du coup, il est pas rentré. Mais j'ai pensé exactement la même chose. Je me suis dit, Massa, il va pouvoir se crasher pour avantager Alonso. Ça, mais bon.
Sinon, Bianchi, lui, n'a fait que 250 mètres.
Oui.
Son moteur n'a fait que 250 mètres.
Il s'est passé quoi? J'ai pas.
Il est sorti des stands, il a pris Sainte-Dévote, il est monté au casino, et le moteur qui au soir, il a fait non! La montée, elle est trop forte pour moi! C'est un moteur de force!
Non mais c'est un début d'incendie dans l'environnement moteur. Alors après je sais pas si c'est un moteur ou une boîte de vitesse.
Et donc à part eux, eh bien, on trouve Esteban Gutiérrez, qui a fait 19, soit moins bien que Charles Pic. Et Paul Di Resta.
Ouais. Mais c'est vrai que c'était aussi à ce qu'il joue quand même, cette qualification. Fallait vraiment être le dernier sur la piste, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Enfin, tout le monde dit Grosjean, il a fait un super temps et compagnie. Ouais, enfin, il avait quand même des pneus neufs. Voilà, en fin de course, bon, il fait le deuxième temps avec des pneus neufs. Bon, bien évidemment, il faut quand même le faire.
C'est vrai que
fait trois accidents et compagnie. Il faut avoir le moral. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel qu'il fasse le deuxième temps avec des pneus neufs en sortant sur la fin de séance.
Mais c'est classe. Il sort, voilà, à 4 minutes de la fin, claque, deuxième temps. Et ça a été dit, mais grand chapeau quand même aux ingénieurs de Lotus. Qui ont réussi quand même à réparer la voiture à temps.
Bah, c'était le grand suspense qu'il y avait lors de ces qualifs.
Voilà, Lotus, Ferrari, est-ce qu'ils vont réussir? Massa, on voit, il avait le casque et tout, donc ils espéraient quand même pouvoir réussir.
Non, Massa espérait. Le mec de Ferrari, on lui dit rien, on dit rien, les gars. Ah, on lui fait la surprise. Felipe, il y a quelque chose pour toi sur le drap. Oh, Ferrari en Mikado. T'as bougé.
En Q2, on trouve Pastor Maldonado à la 16e place, Guido van der Garde qui fait 15e.
Ouais.
Passé en Q2, et moi, enfin, j'étais impressionné par sa Q2, même si finalement, bon, il ne fait que 15e, il a essayé de faire des temps, quoi. Dans la manière, c'était vraiment pas mal du tout.
Alors, en fait, quand on lit bien les déclarations, ils ont été les premiers, en fait, à chaque fois à sortir. Et en Q2, c'est le premier Van der Garde à mettre les pneus slick. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il est virtuellement en Q3. C'est qu'il est en pneus slick et que c'est le bon moment pour les mettre. Donc, il fait un super temps par rapport aux autres. Donc, c'est un peu trompeur. Ça me donne l'impression qu'il a vraiment été extraordinaire. Sauf qu'il avait, pour le coup, l'avantage des pneus. Mais mine de rien, il y a quand même, on peut pas s'empêcher de se dire, il y a quand même le courage. T'es à Monaco, en Q2. T'as pas un grand intérêt à le faire. T'es à une Caterham.
t'es quand même le premier à mettre les pneus slick.
Et sur son temps final, sur son temps final, il fait une 19.408, il est par exemple que 3 dixièmes derrière Valtteri Bottas.
Ouais, mais sur une piste qui s'améliore.
Il s'améliore.
C'est ça qu'au...
Non, mais c'est quand même rare, voilà, d'avoir une Caterham où même, ah bah oui, même au final, t'as pas, elle est pas une à deux secondes derrière les autres, quoi.
Ça change.
Donc je l'ai dit, Valtteri Bottas 14e, Romain Grosjean donc qui est resté bloqué en Q2, lui dit donc c'est déjà Daniel Ricciardo qui était devant lui.
Ouais. Mm-hmm. On faisait bol, hein, il était devant lui tout le week-end.
Ça aussi généralement quand ça arrive à Alonso, Raikkonen, Hamilton, il y a une sanction. Là tout le monde s'en bat les couilles.
Ouais.
C'est voilà.
Il y a même pas investigation.
En même temps aussi à Monaco c'est compliqué de pas avoir de trafic. Faut s'y attendre, hein, quand même.
Je sais pas trop. Je pense qu'il y aurait
encore,
eu.
Il y a plus HRT, hein.
Je pense qu'il y aurait eu une sanction ou au moins ouais, un petit truc. Bah, si
c'est certain, si ça avait été Ricciardo contre Alonso ou Ricciardo contre Hamilton ou Raikkonen.
Ah oui, il serait pris 3 places. Vettel,
sans même forcément qu'il y ait pénalité, il y aurait obligatoirement eu une investigation. Mais là, c'est Grosjean, Ricciardo, c'est l'écart, il est moins grand, donc ça justifie moins l'intérêt des commissaires. Mais ça, c'est la F1, hein. Ça, c'est pas nouveau, hein. Tout le monde le dit aujourd'hui. Si ça avait pas été Alonso dans la Ferrari à Spa, si ça avait été, ne serait-ce même que Massa, il aurait disputé le Grand Prix d'Italie, Grosjean. Il aurait pas été banni de course.
Et donc, Hülkenberg à la 11e place. En Q3, 10e, Jean-Éric Vergne.
Ouais. Ça, c'est
bel qualif.
Ouais.
C'était mal parti son week-end parce qu'il avait pas l'air à l'aise. Mais c'est ce qu'il faut en fait à Monaco, c'est pas être super costaud le jeudi, mais c'est progresser au fur et à mesure du
week-end. Faut être bon samedi et survivre le dimanche.
Et il a en plus bien profité des conditions parce qu'il est, je pense sincèrement aujourd'hui que c'est aujourd'hui le meilleur pilote sous la pluie en Formule 1.
C'est vrai que dès qu'il pleut, il est
une classe monstrueuse. Je suis pas fan de pilote, mais dès qu'il pleut, il a une grinta, ce mec est incroyable. Mais sincèrement, pour moi, il met la branlée à tout le monde sous la pluie.
Ah, il l'a dit. Hein. Il l'a dit, hein, j'aurais aimé qu'il pleuve un peu plus, quoi. Et voilà, quoi.
Bah, il fallait pleurer avant.
Jenson Button à la 9e place. Adrien Sutil, 8e. Sergio Perez, 7e. Devant Sergio Perez, Fernando Alonso à la 6e place et Kimi Raikkonen à la 5e.
Un peu décevant.
Alonso, Raikkonen ou les deux?
Non, pas tant Kimi, parce que Kimi, de toute façon, il a pas eu l'air d'en goût.
Ouais, c'était moyen, ouais. C'était...
Mais Alonso et globalement les Ferrari, alors, est-ce qu'ils ont pas peut-être... c'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème sur la voiture de Massa, contrairement à ce qui a été dit par Ferrari, peut-être un problème technique? On sait que... Alors moi, j'ai lu sur un site italien qu'ils avaient remarqué que la Ferrari était drôlement basse au week-end et que c'est peut-être ce qui expliquait les deux sorties de Massa. Donc peut-être qu'ils ont modifié les réglages et donc ils ont perdu ce qu'ils avaient quand même le jeudi, parce que le jeudi, la Ferrari, moi ça m'énervait quand j'entendais Villeneuve dire ah ouais c'est un circuit qui avantage les équipes avec une bonne aéro. Non, Monaco c'est quand même plutôt réputé pour avoir besoin de grip mécanique, et là la Ferrari était très très bonne le jeudi. J'ai réussi à trouver le bon jour à un moment donné, mais plus du tout bonne le samedi et dimanche. Mystère.
Mais je pense que comme l'année dernière, Ferrari dans les essais etc ne font pas prendre de risques à Alonso. S'ils demandent, s'ils ont un doute sur les règles ou sur une innovation, ils vont demander à Massa d'être plus à la limite et d'attaquer, quitte à se planter, que Alonso. Ah, c'est, je pense que c'est vraiment le, il est là pour ça, quoi. Pour moi, c'est maintenant c'est clair que Massa est devenu plus que pilote numéro 2, c'est devenu pilote essayeur. Ah oui, c'est ça. Que quand on est sûr et certain qu'il y a plus trop aucun risque pour les derniers, pour peaufiner. En fait, il fait le sale boulot, ils pourront vraiment peaufiner le truc. Après, ils doivent refourguer le truc à Alonso. Moi, je vois bien le truc comme ça. Ils vont pas faire prendre de risque à péter les labs d'Alonso. Non, pas.
Sinon, la deuxième ligne était une ligne Red Bull, avec Vettel à la 3e place et Weber à la 4e.
Un peu surprenant, l'inverse de Ferrari. Ils ont été très discrets le jeudi. Et par contre, le samedi, Red Bull.
Et donc, cette première ligne dont on se doutait un peu.
Hein, tout le monde est arrivé à Monaco en disant
Rosberg et Hamilton vont être devant. Et ça masse, voilà. Lewis Hamilton 2e et Rosberg 1er.
Aussi, j'ai beaucoup de personnes, enfin, il y a pas longtemps des personnes qui disaient oui, Hamilton ne peut, et un pilote rapide, il peut pas rouler à fond. Mais pourquoi alors Rosberg le bat au qualif? Au qualif, c'est la vitesse, ils ont la même bagnole, et pourtant Rosberg qui est pas censé, enfin, qui a pas la réputation d'être le pilote rapide, grand nom.
Ça fait 3 fois, hein, quand même.
C'est ça, hein.
3 fois de suite.
C'est justement ça que j'appuie là-dessus, quoi. Parce qu'en même temps, j'aime pas trop Hamilton, mais j'appuie là-dessus.
Et sincèrement, comment ça sentir le doute dans la tête d'Hamilton? Johnson. Il a quand même commencé à déclarer ce week-end, à dire bah oui, c'est moi qui ai pas été assez bon. On sent quand même qu'il a l'ascendant les premiers Grands Prix et que là, Rosberg, moi je dis depuis le début de saison, Rosberg, il a pas à rougir de la comparaison avec Hamilton.
Ah, puis alors là, maintenant, pas du tout.
Première victoire Mercedes de la saison, 3 pôles à 1 pour Hamilton. L'homme fort de chez Mercedes, c'est plutôt Rosberg en ce moment.
Et surtout que l'écurie avait plus confiance en Hamilton, ben le coup du ne l'oubliez pas de Rosberg là, je sais plus quel Grand Prix, Malaisie peut-être.
En Malaisie, ouais.
Justement, même dans le ton de la voix quand il a dit ne l'oubliez pas, je sentais qu'il s'était, beaucoup de personnes disaient oui, ça y est, pilote numéro 1, pilote numéro 2. Non, il s'est pas laissé faire et je suis bien content de le voir à ce niveau.
C'est là que la différence entre Rosberg et Weber.
C'est ça.
C'est-à-dire que voilà, Rosberg, un mec qui a avalé la couleuvre, qui n'a pas fait polémique et compagnie, contrairement à Weber qui aurait poussé des cris d'orfraie et compagnie. D'ailleurs, il l'a fait. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et derrière, il a répondu sur la piste et il a porté sur la piste la preuve qui est plus fort. Là où Weber, bon, il intrinsèquement, il a quand même bien rivalisé avec Vettel ces derniers Grands Prix. Il finit toujours derrière. Là où Rosberg, bon, il est toujours devant Hamilton.
En parlant de Weber, ce week-end, est-ce que vous pensez pas qu'il avait pas la possibilité d'attaquer Vettel qui était juste devant lui? Moi, je pense qu'il l'avait. On lui a juste dit non. Et non, ben voilà.
Attaquer à Monaco, c'est enfin.
C'est compliqué.
Enfin, il a même pas montré une simple intention. Il a suivi. Il a fait un très bon départ.
Mais ils ont tous plus ou moins fait ça. Hein. C'est d'ailleurs sincèrement, c'est ce qui est criant quand on a Adrian Sutil qui nous déclare après la course.
Bah oui, j'avais remarqué que à l'épingle du Loss, on peut dépasser.
Oui, ça t'as remarqué, c'est bien. Tout le monde le sait. Enfin, on a tous vu des dépassements dans le Loss. C'est pas la première année que ça se fait. Et quand même, quand t'as ce mec là qui dit, bah j'ai prouvé qu'on pouvait dépasser à Monaco, mais oui, tout le monde peut dépasser à Monaco. C'est juste que je trouve ce week-end les pilotes très peu tentés. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ont tenté des trucs.
J'aurais été à la place de Weber, je le suis pas et je n'y serais pas. Et difficile de savoir ce que j'aurais fait, mais je pense que je sais pas, j'aurais juste pour dire, hey, oh, coucou Seb, je suis encore là quoi. Je sais pas, j'aurais. Juste
ouais, mais tu sais qu'il y a quand même un risque de finir dans le rail. Je pense que Weber est quand même
un risque, et honnêtement par rapport au championnat, faut aussi le dire, vu comment s'est passé le Grand Prix pour les autres, c'est pas étonnant qu'ils aient sécurisé entre guillemets le Grand Prix.
Quand on prend par exemple chez Mercedes, ils ont dit il y a pas de consigne sur le départ. Le fait de mentionner le départ, c'est que voilà, dès le départ, ça se joue au départ. Tu fais la différence en tant qu'équipier au départ, et à Monaco derrière, si l'autre il est devant, ou alors tu tentes un coup de stratégie ou je sais pas quoi, mais bon là c'était quand même assez difficile. Mais le mec il est devant. Sinon effectivement tu vas essayer de le dépasser, mais c'est des gros risques pour toi et pour ton coéquipier. Donc oui, naturellement ils se brident. Je crois sincèrement même que les pilotes se brident un peu eux-mêmes dans ces cas-là, parce que ça très bien que à Monaco c'est très dur et que vaut mieux arriver à Monaco que finir dans une grue ou
sur
un yacht.
En parlant de yacht et toujours de Weber, sur le sur le site de Fan F1, dans les photos, bah encore à l'heure actuelle, je comprends pas ces photos de Weber là avec son petit t-shirt blanc sur le bateau. Il y en a quatre les unes à côté des autres et ça me fait mais marrer.
Bah c'est aussi ça Monaco, hein. C'est voilà, ils ont leur yacht au bord de...
celle qui me fait marrer le plus, il a les mains jointes entre les jambes, on dirait un enfant. C'est je sais pas.
Mais c'est un grand enfant, Marc Weber. Est très grand, mais un enfant quand même.
Tu pourrais mettre un slogan pour une pub pour les crèmes hémorroïdes à côté de son visage. Je te jure, c'est...
Ou le Viagra.
Moi aussi, j'ai des problèmes d'érection. Je te jure, c'est... Il y a tous les types. Il y a la photo de je regarde en l'air, la photo il pose vraiment à mort et c'est oh putain. Et il y a les quatre photos les unes à côté des autres et ça me fait vraiment mal.
À noter que Massa et Chilton ont été rétrogradés de 5 places pour changement de boîte de vitesse.
Oh bah ça, c'est la fille de grosse différence. Ouais.
Et que Jules Bianchi s'est lancé des stands, mais il a été le seul. Parce que Massa, la question se posait, hein, et non, finalement.
Bah il y a moins d'intérêt à le faire. Hein,
à noter que c'était la 4e pole position pour Nico Rosberg, la 13e pour Mercedes, et la 95e pour le moteur Mercedes. On va passer au classement.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et cette semaine, le classement vaut son pesant de cacahuètes. Mais genre, usine Benenuts, hein, les gars, vraiment. Et Dino, peux-tu nous indiquer les pilotes qui ne font pas partie du top 10? Et déjà, rien que cette partie-là, il y a des trucs hallucinants.
Alors, ne font pas partie du top 10, Esteban Gutiérrez, 22e avec 12 points. Pastor Maldonado, 21e, ne fera donc pas, lui non plus, partie du top 10 avec 18 points seulement. 20e, il est français. C'est l'homme qui tombe à pic, c'est Charles Pic, avec 31 points. Ex-aequo avec Daniel Ricciardo, qui tombe à la Ricciardo, 31 points, 19e. Romain Grosjean, alors il est 19e parce qu'il est mieux classé à l'arrivée, puisqu'il a abandonné après. 18e, Romain Grosjean avec 38 points, 17e.
Pourquoi c'est déjà, voilà.
17e, Bottas, 45 points. 16e, Max Chilton, 52 points. Il est quand même derrière Jules Bianchi, 15e, 53 points. Le numéro 69, il est pour Nico Hülkenberg et ses jolies dents en 14e position. Le numéro 13, c'est la position qu'occupe Van der Garde avec 201 points. Il y a un énorme gap.
Ouais, c'est vraiment...
En 12e position, nous avons Paul Di Resta, 321 points. Et enfin, Mister Eleven. Il est... Puisque c'est... J'adore sa transition de merde.
Dis-le.
Puisque c'est...
Non, dis son surnom.
C'est Voldemort.
C'est Lord Voldemort.
C'est Sergio Perez, 453 points. À noter que le vainqueur de ce week-end marque 2154 points.
Et que honnêtement, le premier est bien premier, mais même dans le classement, c'est très serré. C'est beaucoup plus serré que d'habitude.
Ouais.
À noter, moi, j'ai donné un point pour Van der Garde. Je l'ai expliqué, hein, c'est par rapport à ce qu'il a fait en qualif. Voir une Caterham, même si on sait que c'était décalé et tout ça, faire des temps, moi, je vous ai... Waouh.
Ouais, une Caterham rapide.
On va pas aller jusque-là. Faire des temps. Dino, tu as donné un point à Charles Pic. Why? Mais why?
Parce que tout simplement, il y a eu ce grand moment où on a entendu « Ah là, Charles Pic a un accident, il a percuté une voiture !» En fait, non, c'était Van der Garde. Parce que ce qu'on n'avait pas vu, c'était que Van der Garde était passé derrière Charles Pic. Autrement dit, Charles Pic, au départ, était passé devant Van der Garde. Et à Monaco, on a beau dire que la qualif est très importante. Pour moi, le plus important, c'est le départ. Qui part bien, se classe bien. Et pas Charles Pic était bien parti, il aurait bien pu se classer, sauf que derrière, ça n'a pas tourné correctement. Donc voilà. Puis c'est qu'un point, donc fallait compléter.
T'as aussi donné 2 points à Di Resta.
Parce que là, voilà, pour le coup, qui part 17ème, qui termine dans les points, sans forcément trop d'abandon devant. Voilà, la course dont on parle pas beaucoup et qui est quand même là.
Gaëtan, tu as donné 2 points à Romain Grosjean. qui est quand même 19ème quand même. Hein.
Bah, j'ai trouvé que c'était qu'il était rapide, qu'il avait quand même fait un bon week-end, c'était quand même c'était pour compléter, vraiment pour compléter et pas de bol. Du coup, je trouvais que c'était un peu injuste. Pourtant, je suis pas un fan de Grosjean du tout. Hein. Je trouve que là, franchement, il a pas eu de bol. C'est voilà.
Et sinon, on a tous les trois donné des points à Lord Voldemort. Gaëtan, tu as donné 1 point, j'ai donné 6 points. Dino, tu as donné 8 points à Sergio Perez.
Oh, t'as donné 6 points à Sergio Perez.
Vous êtes fous.
Et encore, je l'ai mis derrière quelqu'un, parce que pour moi, il n'était pas possible que je le mette devant quelqu'un.
Bah, il a essayé, mais il a pas réussi.
Mais tu sais, ce qui est dingue, c'est que avant que ça arrive, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, quand même, Sergio, bon, il est agressif, il monte ses coronesses, mais quand même, faut qu'il fasse gaffe, quoi, parce que quand même, il y a un moment, ça va pas passer. Bon, j'aurais préféré que ça se passe avec un autre pilote.
Mais si ça passe pas, c'est que c'est de côté que ça passe pas.
Oui, je sais vers quoi tu veux qu'on commence à discuter, écoute. C'est un incident de course.
Ah non, mais on est tout à fait d'accord, c'est un incident de course. Voilà.
Je tiens à préciser un truc. Kimi est allé voir les commissaires après, mais ça n'était absolument pas pour ça. En tout cas, il a eu une réprimande pour vitesse excessive sous safety car.
Voilà.
Il n'a rien eu.
Il y en a qui auraient pris 2 secondes de pénalité.
Oui, c'est vrai. Mais il n'a rien eu pour ça. Je suis d'accord que c'est vrai que Kimi se rabat un peu tôt.
Un peu.
Mais en même temps, il sait qu'il y a Sergio Perez derrière. Il sait que Sergio Perez va essayer de faire une attaque de bourrin. Donc c'est normal qu'il essaie de défendre sa place.
Mais moi, en fait, c'est pas trop sur la défense, c'est surtout sur les déclarations après où le trait dit que la manœuvre est stupide et compagnie. Non, ce qui est stupide, c'est que tu sais que t'as Sergio Perez.
Des deux côtés, ça a été débile. Hein.
Oui, non mais ce qui est stupide, c'est la réaction de Mira Raikkonen qui est de dire derrière que c'est stupide. Non, ce qui est stupide, c'est que tu as fermé la porte violemment à un mec que tu sais très bien qui commence une manœuvre, il va y aller.
Oui.
Voilà. Donc c'est ce qu'a compris Alonso. Et voilà, il a essayé Alonso un peu de faire oh, genre je passe à l'intérieur pour éviter le vibreur. Personne n'est dupe, Fernando.
Ah, ouais, mais alors là, et pour le coup, je vais dire. J'ai trouvé que, bon, finalement, il n'a pas eu de drive-thru, rien, il a juste eu à rendre la place. Je trouve quand même que d'avoir sanctionné ça sur Alonso, c'était quand même dur.
Bah, non, moi, c'est juste
normal.
C'est juste, tu le vois au ralenti. Ouais. Tu le vois au ralenti qu'il est passé, Sergio. Franchement, tu le vois qu'il est passé et qu'il tourne pour dire, ouais, il y aurait eu contact avec les roues, il n'y aurait pas eu grand-chose en termes de contact.
Ouais, bah quand même, contact avec les roues...
Ouais, mais il était passé quand même, parce que c'est en plus ça mettait le peu de spectacle. C'était le premier dépassement qu'il y avait de la course. Je voyais mal les commissaires sanctionner ça, quoi. Il devait vraiment se faire chier aussi.
Mais ça va, donc, finalement, parce qu'il aurait pu avoir un drive-through. Finalement, il a juste eu à rendre la place.
Puis là, c'est clairement d'endroit, et c'est ce qu'a compris Pérez, c'est ce qu'il a fait sur Button, qui a magnifiquement marché sur Button, qui a un peu moins bien marché sur Fernando Alonso, et qui a pas du tout marché sur Raikkonen, c'est qu'il a compris qu'à ce virage-là, celui qui a l'avantage, c'est celui qui a l'intérieur. Oui. Qui se jetait à l'intérieur. Après, c'est au pilote d'à côté de se dire, qu'est-ce que je fais? Et automatiquement, l'avantage, il est au pilote qui est à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, Alonso, il a un choix. Soit aller dans la voiture de Pérez, soit passer à l'extérieur, soit couper la chicane. Il a coupé la chicane. Ça n'empêche pas qu'il a coupé la chicane, qu'il y était plus ou moins contraint parce qu'il y avait une voiture à côté de lui ou pas, il a quand même payé la chicane. Il avait un choix qui était de freiner, de pas rentrer dans le virage, de s'avouer vaincu. Il l'a pas fait.
Mais on le voit, Alonso, hein, sur le ralenti, j'ai bien perçu qu'il relâche l'accélérateur. Pérez, il est déjà en avance, et là, il décide, bon, il est passé, soit je freine et je me retrouve derrière, soit je tente le petit coup de traquenard, et voilà, quoi. Il a tenté, c'est pas passé, quoi.
Après, c'est vrai qu'il y a le dedans, là, mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ils avaient mis l'année dernière le super revêtement hyper à bras, là, et là, il y était, dans l'échappatoire de Mirabeau, mais il y était plus, sur l'épingle, et ça, je comprends pas pourquoi. Parce que du coup, bah, les pilotes, ils ont tracé tout le week-end, je rate mon freinage, c'est pas grave, du coup.
Sinon, sur le reste de la course de Pérez, bon, la majorité de la course de Pérez, c'est ça, quoi.
Mais c'est con parce qu'il fait vraiment une course brillante. À Monaco, il fait la course. Bah, sincèrement, il fait la course à Monaco. Sans l'accident, je pense que Pérez, il est déjà mieux classé. Et puis, sans l'accident, il est beaucoup plus haut dans le classement. Parce qu'il fait une course incroyable avec des dépassements. Il est rapide, il économise ses pneus. Il fait l'axe à Monaco. Il est le meilleur lors du Grand Prix. Il est le meilleur.
On oublie qu'il a sa McLaren qui est bien en dessous des autres, hein.
Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut saisir les opportunités, et c'est vrai que bah là il paye un peu son excès d'ardeur, et aussi le fait qu'aujourd'hui il y a des pilotes qui veulent plus laisser faire. Clairement, c'est pas le premier problème qu'il y a entre Raikkonen et Pérez, et moi je persiste à dire que Raikkonen sait très bien à qui il a affaire derrière, qui lui ferme la porte en sachant très bien qu'il prend un risque.
Ah, mais on le voit, le coup d'œil dans le rétro, quoi, il tourne voilà. Clairement la tête, il le voit, il donne le coup de volant. C'est net et clair. Après, Pérez, le premier dépassement sur Button, j'ai applaudi. J'étais dans mon canapé, j'ai vraiment applaudi. J'étais vraiment après, je m'y attendais pas du tout. Il m'a autant surpris que Button. Qui retente la manœuvre sur Alonso, c'est passé. Ça commence à être chaud. Et donc ça, déjà, je me dis bon, il va quand même pas tenter une troisième fois. Et là, le coup de tenter une troisième fois et que ça passe pas, je me dis bon, voilà. Et il s'est entêté en fait. C'est l'entêtement. C'est ça qui m'a.
Oui, mais en même temps, il s'est entêté parce que ça a marché deux fois.
Il a déjà fait un essai. Parce qu'on oublie, il fait déjà un essai sur Raikkonen un tour avant. Et c'est sur le deuxième où il est quand même. Ouais, il est optimiste.
Et les deux coups.
Il est optimiste.
Ouais.
Il vient aussi de beaucoup plus loin. Enfin, ouais, c'est.
Mais à chaque fois, il vient de plus en plus loin.
C'est ça. Moi, c'est ce qui a fait que il a dégringolé au classement. D'abord, je l'aurais mis troisième, clairement, juste parce que un très beau dépassement, il fallait avoir les culs de le faire. Puis peut-être quatrième avec, où je l'aurais peut-être laissé. Mais là, il a dégringolé parce que je dis non, c'est tellement bête, quoi. J'ai trouvé ça bête. Il avait fait une très belle course. Il a eu les yeux plus gros que le ventre et je l'ai sanctionné du coup. J'ai mis les
autres
dedans.
Oui, mais en même temps, moi, j'ai envie un peu de le défendre aussi. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas de dire que les pilotes n'attaquent pas.
Ah oui.
Et d'ailleurs, ce week-end, sincèrement, heureusement qu'il est là parce que y a aucun mec qui tente quoi que ce soit. On s'est fait chier pendant ce Grand Prix. Des mecs n'ont rien tenté. Lui, il a tenté. Et ce qui est dur, c'est que au final, on lui reproche presque de trop tenter. C'est-à-dire qu'on trouve que les mecs tentent pas assez, mais en même temps, dès qu'ils tentent et que ça passe pas, on leur reproche de trop tenter. Donc voilà, il a tenté.
Ça a pas
les
marché.
Deux, d'ailleurs, ont tenté. Ça a pas marché. Ça se finit dans le mur. Mais au moins, il a tenté, quoi.
C'est pas tant qu'il est tenté ou pas, c'est que il a pris pour le même dépassement, il a pris de plus en plus de risques. Et c'est ça en fait. C'est là, il venait vraiment trop loin, quoi. C'était.
Mais on est tous pareils. Quand on fait un truc, on se dit tiens, je vais essayer en me compliquant un peu la tâche. Et à chaque fois qu'on réussit, on se dit bah là en fait c'était trop facile. Je vais me fixer un nouveau défi. Je vais voilà, quand on s'est tous retrouvés par exemple avec un ballon, en essayant de marquer un but, on marque le but, on dit tiens, je vais reculer de quelques mètres, je retire, ah, ça rentre, je recule, jusqu'à arriver au terrain en disant ah tiens, j'ai pris trop de risques là. Voilà, là c'est ce qu'il a fait quoi, c'est que il a tenté une première fois, ça a passé, la deuxième fois ça passe au Sosnier sur Raikkonen. Il a retenté la première fois, ça a pas marché. Il dit, bon, bah, la Raikkonen est au courant. Ah, il sait que je vais la checker loin. Il doit se méfier. Et je pense qu'à ce moment-là, il a pas anticipé le fait que Raikkonen.
Oui, il était au courant.
Oui. Je pense même que Raikkonen, il en était au point de se dire, ça cassera ou ça passera pas. Voilà. Je pense que il a un niveau avec Perez en ce moment, qu'il a envie. Je pense que d'un côté, il s'est dit, ça se finira dans le mur peut-être, mais ça, à un moment donné, si je me laisse faire comme ça à chaque fois par Perez, je vais l'avoir toute la saison, donc autant que là j'en finisse.
Ouais, que je montre que ça passe pas, quoi.
Et la prochaine fois, je pense que Perez, oui, réfléchira peut-être derrière Kimi Räikkönen en disant, ah, à Monaco, il m'a fermé la porte, qu'est-ce qu'il
y a moins de rails sur les autres circuits aussi.
Oui, mais il y a toujours possibilité de sortir.
Passons à la 10e place.
Oh la vache, on en est
coupé. Ouais, mais bon, la 10e place, hein. C'est le coéquipier de Sergio Perez, c'est Jenson Button, 498 points. Ouais. Nous, on lui a pas donné de points.
Ouais.
Moi, je l'ai trouvé anonyme, quoi.
Tu fais pas un dépassement à la rascasse, quand même?
Oui, il dépasse Alonso par l'intérieur à la rascasse. Il en est même très content. Mais je sais plus c'est quelle circonstance, qu'est-ce que bah c'est Alonso doit oui c'est quand c'est bouchonné par Perez et
compagnie, oui.
Que Alonso il est un peu à la dérive et voilà, enfin oui ça a quand même beaucoup moins de gueule Jenson que se tenter par Lewis Hamilton un peu plus tôt.
À la 9e place c'est Fernando Alonso, 508 points. Dani, hein, ça s'est pas joué beaucoup. Je lui ai donné 2 points au classement. Gaëtan, tu lui as donné 4 points. Un bon week-end, hein, Ferrari, tu l'as dit, ça commençait bien, mais au final ce dimanche j'ai presque envie de dire, s'il n'y avait pas eu Perez, on l'aurait pas vu, Alonso.
Bah, moi, clairement, mon top 10, ça reflète un peu la course, quoi. Mais, et du coup, je l'ai mis là, vraiment, parce que c'est l'écurie fétiche que je suis, quoi. Même si, même si je tape pas trop sur les autres et que je reconnais quand ils font du bon boulot et qu'ils méritent de gagner, etc. Là, ils ont eu un week-end sans. Fallait mettre quelqu'un. J'ai vraiment eu du mal ce week-end à faire mon top 10. Ouais, je l'ai mis là. J'ai pas trop de raisons.
Mauvais week-end de Ferrari.
Ouais. Pierre, moi j'ai un peu cru au début quand il a perdu le terrain. Tiens, il met les 2 secondes d'écart. Voilà, il se ménage un petit peu pour la stratégie au stand. Et alors après il y a la safety car. Je crois qu'ils ont, oui, ils ont commencé à faire leurs arrêts avant qu'il y ait la safety car. Donc c'est à ce moment-là que je dis bah non, en fait non, il est vraiment à la ramasse, quoi. Ou alors il a peut-être géré, mais ça
c'est. Bah il a géré tout le temps, c'est ça le problème.
Il a pas du tout attaqué. Il a attaqué dans les 2 premiers tours comme les autres et tout le reste.
Il a aussi, je trouve, été malchanceux quand même parce qu'il perd des places. Bon, celle sur Perez, il a perdu sur une manœuvre. Bon, une manœuvre. Honnêtement, elle a une chance sur deux de passer, quoi. Là, elle passe. Il est obligé de payer. Bon, voilà, il a perdu pour pas grand chose, on va dire. Et les autres places, il les perd sincèrement avec des circonstances. Enfin, il est un peu pris. C'est un peu le cocu de la course. Hein. Voilà, je voulais pas dire gros mots, mais je suis obligé. C'est un peu le cocu de la course. Dès qu'il y a une situation qui ne devait pas réussir à un mec. Elle était pour Alonso. Et il a perdu des places comme ça, juste bêtement. Faut d'inattention, faut de peut-être trop préserver, de trop chercher à pas attaquer aussi peut-être. Enfin, le dépassement de Sutil au Leus. Enfin, comment est-ce qu'il peut laisser la porte ouverte à l'intérieur, quoi? C'est juste pas compréhensible. On a l'impression qu'Alonso, à un moment donné, il était plus dans la course.
C'est ça, j'ai l'impression qu'il s'est
mentalement
endormi.
Mentalement, il disait, je vais voir l'arrivée, je vais sauver ce qui peut être sauvé. Et quand il commence à rentrer dans cette logique de je vais sauver ce qui peut être sauvé, bah alors là, c'est la dégringolade.
8e place, c'est Jean-Éric Vergne, 554 points. Gaëtan, tu lui as donné 8 points. Dino et moi, on lui a donné 4 points.
Bon, très bon week-end. Oui. Devant son coéquipier. Voilà, quoi. Vraiment, très bon week-end.
Bah, il lui est pas arrivé grand-chose. Il fait partie de ces gars, bah, justement, qui étaient dans le train. Hein. Il est 10e. Il est tout le temps 10e, après les arrêts il est 10e, et finalement il finit 8e parce qu'il y a le pet entre Räikkönen et Perez.
Mais Vergne, en fait, c'est le Weber de Toro Rosso. C'est-à-dire que comme Weber, il est un petit peu en dessous de son coéquipier tout au long de la saison, mais alors sur les grands qui comptent, il est là. Et là, Monaco, il faut être là. Voilà, quand tu marques des points à Monaco, ça place le bonhomme. Et voilà, et c'est un peu comme Weber. Weber, on l'oublie, mais il a 2 victoires à Monaco. Vettel en a que. Il a des victoires à Silverstone et compagnie, sur entre guillemets, sur des circuits de vrais pilotes. Il a des victoires où Vettel n'en a pas forcément. Bon, Vettel, il en a aussi pas mal de victoires sur des circuits de vrais pilotes. Mais voilà, il est capable d'être là sur des vrais circuits, quoi. Et Vergne, c'est un peu ça. On a un peu l'impression que sur un vrai circuit, il fait la différence. Sur d'autres circuits, il est un peu plus dans le match.
Moi d'ailleurs, entre Vergne, Grosjean, enfin entre les Français, Pic je le connais pas trop et j'ai pas pu, j'ai pas encore les compétences pour juger s'il fait du très bon boulot ou pas. Mais Bianchi, il avait attiré mon attention quand il faisait les essais pour Ferrari. Il me semble ou Red, non, il était chez Red Bull.
Non, Bianchi c'est.
Je sais plus, mais. Bianchi c'est Ferrari. Mais pour les essais jeunes pilotes, il avait piloté la RB8, non?
Bianchi, c'est soit Ferrari, soit du Force India.
Ok, d'accord. Il avait attiré mon attention justement sur ça, et je suis très content de le voir cette année en F1. Mais sinon, pour les pilotes de tête, c'est-à-dire entre les Français tête, entre Vergne et Grosjean, je trouve que Vergne, il a un petit truc en plus que Grosjean, enfin, en termes de dans mon capital sympathie, en cas. Donc voilà. Je trouve qu'il mérite aussi, j'aimerais bien le voir dans une équipe un peu plus haut dans le peloton, même si c'est bouché, quoi.
Non, il ne fait que ça, cette année. Il ne travaille que pour ça.
Ça risque de pas être bien payé, son travail. Tu me diras, il y en a un qui croit à fond et je sens qu'il va finir un cocu, mais bien à la fin de la saison quand il va voir Raikkonen sur Red Bull.
Et je t'avouerai que vu les trucs qu'on voit, je me dis que peut-être partir chez Red Bull, c'est pas une mauvaise idée.
Non. C'est bien, il y a une place qui va se libérer chez Lotus.
Pour peut-être deux.
Je pense qu'on va beaucoup en parler lors du prochain mag, mais bon. Je dis ça comme ça, je sais pas, on n'a pas encore fait le programme, mais bon. À la 7e place, ça fait partie de ces mystères cette semaine, hein.
Attends, il y a une couille là. J'ai le cassement sous les yeux.
Quand je l'ai lu, j'ai regardé les trucs deux fois, voire trois fois, oui, voire quatre fois, en me disant non, il y a un bug. Non.
La pitié est puissante quand même, hein. Permettre sincèrement, il y a un gros sentiment de pitié.
On a beaucoup parlé de la puissance des fan clubs, mais la puissance de la pitié. Puisque c'est Felipe Massa qui a marqué 749 points.
Même moi, je l'ai pas mis dans mon top 10, c'est mon pilote fétiche. Même moi, je l'ai pas mis.
Et surtout, c'est qu'il y a rien à dire sur Felipe. Et il a pas fait la qualif, la course, on l'a pas vu. Les essais libres, y a pas grand chose à dire.
Donc, voilà, je lance une invitation. J'invite les gens qui ont donné des points à Massa, mais qui ont donné des gros points, hein, parce que 2 points, non, 749 points, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment donné, qui ont vraiment donné beaucoup de points à Massa. Expliquez-nous en commentaire pourquoi.
Oui, ou envoyez-nous un fichier audio. Voilà, on rajoutera après dans l'émission. Vous voyez, on publie l'émission, vous entendez ça d'ailleurs.
On ne vous insultera pas. On veut juste comprendre. Voilà.
Oui, parce que là, sincèrement, c'est-à-dire que on voudrait.
Parce que on ne pourrait pas. Voilà, parfois, rien. Bon, on sait, voilà, c'est des pilotes réputés, ils ont leur fan club, donc on sait qu'ils auront forcément pas mal de points et tout. Mais là, quand même.
Non mais là on peut dire c'est qu'on peut,
ah non,
on peut
non,
rien
donc
dire.
On va passer à la 6ème place.
Le mec, on l'a pas vu en course, en qualif il était pas là, en essai libre 3 il est parti, il était pas là. On dit quoi?
Peut-être qu'ils sont contents qu'il a pas eu de problème avec ses accidents, quoi. Voilà.
Oui, c'est ou alors on l'a pas vu, il avait une bonne raison, ou je sais pas.
C'est peut-être le fan club de Saint-Dévot qui a voté, je sais pas, c'est.
Ouais.
Peut-être les spectateurs, parce que ça faisait une animation, je sais pas.
Sincèrement, il nous a offert quand même deux des plus beaux crashs de la saison, sans doute d'ici la fin de saison. Ces deux cartons sont quand même magnifiques.
Le premier, il y a un plus de débris. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai mis Grosjean 9e, parce que j'aime bien les gros cartons. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, il y avait un... Je suis content que les deux pilotes n'aient absolument rien, mais c'était joli, j'ai bien aimé.
Et ça fait aussi le charme de Monaco.
Ah, c'est... Et mais Massa, ouais, le premier carton, il y a beaucoup plus de débris. Et je pense que en course, le premier, si on inverse les deux chocs, il y aurait eu la safety car pour un ou deux tours, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de débris. Tandis que là, ça restait bien condensé, et puis les commissaires ont pu intervenir seuls, quoi.
Alors passons à la 6e place, et Mark Webber qui a marqué 964 points. Et alors là, Dino et moi on lui a donné 12 points, mais Gaëtan tu lui as donné 18 points.
Parce que malgré que je l'ai critiqué, tu vois, j'ai trouvé que je l'ai critiqué dans le sens où je l'ai pas critiqué lui, j'ai plus critiqué Red Bull. C'est dans le sens où je pense que il fait un très bon départ pour une fois. J'ai l'impression qu'il fait un très bon départ. Je crois qu'il part combien de thèmes déjà? Il part 4e, il est 3e au départ, ouais.
Ouais, 4e.
4e aussi?
Ouais, ouais.
C'est comment il fait pour passer après 3e?
Et en fait grâce à la safety car. Oui, parce que il faut savoir, c'est que à Monaco, la safety car, elle aussi est à la rue. Et donc, la safety car se met devant le troisième.
Il est très content, Lewis, de la safety car à Monaco.
En faisant le top 10, je m'étais dit, ah oui, bah, il l'a passé au départ.
Bah, il l'a passé dans les stands grâce à la safety car.
Ouais, ok. bah, pourquoi deuxième? Je pense que, j'ai plus aucun argument, moi.
Parce que il a le mérite d'avoir gardé son casque, déjà. Il a pas fait comme les 20 autres couillons. Il avait son casque, il l'a gardé.
C'est vrai que les erreurs des commentateurs, genre « Ah, c'est Bianchi qui s'est pris Maldonado, ah bah non, c'est Chilton », des trucs comme ça. Cette semaine, on les excuse, hein, parce qu'avec tous les nouveaux casques, oui, bah. Putain, Monaco, c'est...
Non, bah, j'ai aucun argument. À part pour dire que je pense qu'il... Il était quand même tenté de... Je pense qu'il était quand même tenté de... d'attaquer devant lui, mais il s'est dit non, je respecte les consignes d'équipe, pas mort, et puis voilà quoi. Mais moi j'aurais attaqué, j'aurais fait mon connard.
Non, il a fait son Rosberg ancienne génération, voilà, il finit troisième, on le voit pas beaucoup, mais il est là troisième quoi.
Non, Rosberg, il faisait une course anonyme, c'était coincé entre les meilleurs et les moins bons, et parce qu'il avait... sa voiture lui permettait pas plus.
Là, sincèrement, quand même, Weber, il a Red Bull en problème. Laissons à Rosberg ce qui appartient à Rosberg.
Oui, mais tu sais bien, Weber, c'est le Red Bull Light, c'est pour ça. Il y a le vrai Red Bull et il y a le Red Bull Light. Passons à la cinquième place avec 1040 points. Alors là encore, hein, toujours, les écarts sont pas énormes. C'est Kimi Raikkonen. Je lui ai donné 8 points parce que je voulais qu'il soit devant Voldemort. Tu lui as donné 6 points. Tu as préféré mettre Monsieur Voldemort devant. Et Gaëtan lui a donné 12 points.
Bon, encore une fois, j'ai trouvé, je trouvais qu'il a fait une bonne course. Un peu anonyme sur les essais et la qualif. Enfin, la qualif, il s'est un peu réveillé. Mais, sinon, une bonne course, hein. Il a essayé de faire ce qu'il a pu, il a bien défendu. Voilà, quoi. Il a fermé la porte, mais sans que ce soit assez violent pour recevoir une pénalité. Donc, il était borderline, mais c'est passé quand même. Donc, en termes de défense, c'est passé. Donc, au final, j'ai trouvé qu'il méritait plus que Perez d'être classé devant aussi. Donc, je l'ai mis là.
Bon, ça a quand même mérité une petite investigation, quoi. Je dis ça, j'ai rien. Mais, bon.
Moi, j'aurais investigué. J'aurais été commissaire, j'aurais investigué. Mais après, les commissaires ont jugé que c'était limite, bah, c'est limite, quoi.
Non, les commissaires ont jugé que c'était pas reconnaître.
Non, c'est pas pour ça qu'il a eu.
Ils se sont dit, c'est Raikkonen, on va rien lui reprocher, il est trop beau, c'est le meilleur.
Et puis sinon, si on dit quelque chose, il va nous mettre un pain dans la gueule. C'est ce qu'il a dit, voilà. Pérez, hein, donc... Non, mais un peu une course, comme les autres, quoi. C'est-à-dire, finalement, à part le moment où il y a eu, le truc avec Pérez, il a eu une course quand même très régulière. Voilà.
C'est ça.
Après, faut quand même noter, on peut noter quand même, après son incident avec Pérez, alors c'est vrai, il a des pneus neufs. On est d'accord. Hein. Mais faut rappeler quand même que, après l'incident avec Pérez, il passe de la 5e à la 16e place.
Non, il n'a pas des pneus neufs. Il a surtout Pérez qui est en train de bloquer tout le monde devant. Et que lui, il est derrière, il remonte comme un malade.
Il arrive quand même à remonter de la 16e à la 10e place.
Oui, mais en sachant que les mêmes devants sont ralentis.
les rails ne se sont pas écartés au moment où il est arrivé. Hein, non plus,
c'est
hein.
Ça, c'est ça. Je veux dire,
il faut voir aussi qu'il y a devant.
Attention, je dis pas que c'est les plus beaux dépassements qu'on ait eu ce week-end. C'est quand même pas mal. Il y en aurait d'autres qui seraient restés bloqués.
Oui, mais pour le coup, tu vois, si on part sur cet argument-là, Direstad doit être devant Raikkonen alors au classement. Mais lui, il a pas l'excuse de « Ah, la voiture a été ralentie devant et compagnie ». Mais c'est vrai qu'il est bien, il se
voit. Il réussit à...
Il continue sa série.
Son peut-être encore.
Vivement le Canada.
Ouais.
Pour qu'il finisse dans le mur. Oh, bienvenue au Québec. Poussé par Pérez.
Ouais.
Passe à la 4e place. Et à la 4e place, avec 1072 points, on trouve...
L'homme qui a doublé à Monaco.
Avant lui, personne n'a doublé. Après lui, personne ne doublera. C'est l'homme qui a doublé à Monaco.
Et il a doublé relativement proprement, lui. Hein.
Oleus. Attends, Oleus, il y a quand même pas l'endroit. C'est l'endroit le plus propre de la
saison. Bah, c'est sûr qu'à 35 km, c'est propre. Hein. Voilà. C'est Adrien Chitty. Je lui ai donné 10 points, comme toi, Dino. Gaëtan, tu lui as donné 6 points.
J'ai vraiment eu du mal à faire mon top
10. 18 points Weber. 6 points Stutz, c'est pas mal.
J'ai vraiment eu du mal. Non, mais. Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il avait fait une putain de course. Je sais pas, j'ai pas dû suivre sa course du tout parce que, à part le dépassement sur Alonso, j'ai pas suivi le reste. Franchement, je saurais pas, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qu'a fait Sutil? Il a dépassé Alonso. Je sais.
Il a fait le dépassement de Monaco. Enfin, c'est lui qui le dit. Je pense que les gens qui ont regardé le Grand Prix, c'est pas ce dépassement-là qu'ils vont penser en premier.
Non,
ils vont peut-être retenir le dépassement de Pérez sur
le Button, dépassement de Pérez.
Accessoirement
sur Alonso.
Peut-être celui sur Alonso. Et accessoirement, même s'il marche pas, le dépassement pour moi, le dépassement du week-end, c'est quand même Hamilton sur Weber. Voilà, sincèrement, bon, à la rascasse, ma merde.
C'est vrai que ça n'a pas marché. Mais tu sais, c'est comme Pelé. Pelé disait son plus beau but, c'est un but qu'il a raté.
Ouais.
Bah Hamilton, c'est un peu pareil. Et Lord Voldemort encore plus.
Mais Pérez, c'est le nouveau. J'ai l'impression que c'est le nouveau Maldonado hein, cette saison. C'est.
Non, mais il a toujours été comme ça. L'an dernier, il était aussi comme ça. Mais l'an dernier, c'était. Il avait peut-être moins besoin de le montrer cette qualité-là.
Sûrement, ouais.
Parce qu'il avait une voiture. Et c'est justement ce qui est intéressant. C'est-à-dire que l'an dernier, il avait une voiture où il fallait qu'il économise ses pneus et il savait le faire. Et cette année, il sait économiser ses pneus. D'ailleurs, ils l'ont dit à la radio, t'économises bien tes pneus. Et il arrivait malgré tout à attaquer en même temps. C'était déjà le cas. À Barcelone, il y a 15 jours, 3 semaines, 15 jours, où aussi il avait fait une bonne économie de pneus et derrière une bonne attaque. Sincèrement, c'était des très très belles qualités pour ce pilote, dont je suis pas sincèrement très fan, mais là, il réunit deux belles qualités. Il est à la fois économe et attaquant, et plutôt ainsi, c'est assez bien.
On va passer au podium, et à la troisième place, on va parler de Lewis Hamilton. 1154 points.
Un peu comme Alonso. Le cocu devant, là, voilà.
Il lui fallait un truc. Merci, la sceptique, car là, pour le coup...
Voilà. Alors voilà encore un truc où on peut pas sanctionner, alors que sincèrement ça mériterait quand même. C'est pas équitable. La CFR se garde bon, les Red Bull en laissant filer les Mercedes. C'est pas logique. Théoriquement, je veux pas être méchant, mais c'est Sébastien Vettel qui doit gagner le Grand Prix.
Comment ça, j'arrive pas à voir. Il y a un accident, la safety car sort.
Il y a un accident, la safety car sort. Elle sort juste devant les deux Red Bull. Théoriquement, elle aurait dû sortir devant les Mercedes. Oui. Sauf qu'en sortant devant les Red Bull, elle ralentit les Red Bull, là où les Mercedes peuvent continuer à rouler à un rythme qui est imposé par la FIA, mais qui est supérieur que le rythme que tu adoptes en roulant derrière la safety car. Donc, ce qui fait que quand Nico Rosberg s'arrête, un arrêt comme si de rien n'était, il ressort, il est le premier, pas de problème. Il y a que pour Hamilton que ça change quelque chose, parce qu'il a ralenti un peu avant, justement en anticipant le fait qu'il allait arriver juste derrière Rosberg au stand, que ça implique aussi une surcharge moteur et compagnie. Donc, il a un peu ralenti dans le tour avant d'entrer au stand, pour arriver juste derrière Rosberg au moment où Rosberg partait pour qu'il puisse rentrer au stand, comme si de rien n'était. Et c'est là où lui, il perd de place, et que, il les a perdus en ralentissant, et aussi parce qu'à un moment donné, la safety car aussi son boulot et compagnie. Mais théoriquement, les deux Mercedes doivent se retrouver derrière les deux Red Bull à ce moment-là. Puisque les deux Red Bull se sont arrêtés, quand rentre la safety car, les deux Mercedes doivent se rentrer. Si la safety car avait fait son boulot, la safety car se serait passée devant les deux Mercedes seraient rentrées au stand et elles seraient ressorties, mais bien loin derrière, peut-être même pas troisième et quatrième. Donc oui, Mercedes peut dire un gros merci à la safety car, et même Lewis Hamilton, il y perd de place. Mais ça aurait pu être pire. Donc c'est un peu dommage aussi parce que il faut aussi être réactif sur la safety car et les mecs de Mercedes n'ont peut-être pas été assez les mecs de Red Bull, ils ont vu l'accident, ils ont pris le risque de tout de suite sortir des garages et d'accueillir leur pilote pour changer les pneus. Là ce que n'a pas fait Mercedes. Donc voilà, ça récompense peut-être pas le choix le plus audacieux ou ça a fait basculer la course. En tout cas, pour moi, ça a décidé de la course, ça a décidé du vainqueur. Et du quatrième.
Hamilton, qui a fait avant ça, faisait bien le numéro 2, en fait.
Ouais.
Il a bien sécurisé... il a fait le bouchon, quoi.
Oui, même si on a vu sur la fin de course que Rosberg n'est pas forcément besoin d'Hamilton pour faire le bouchon.
Bah, les écarts n'ont jamais été non plus super grands dans ce Grand Prix. Hein.
Non. Non, mais Hamilton, il fait... Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais là encore, c'est pareil. C'est-à-dire, je pense qu'Hamilton, il est pas devant son coéquipier, il tente plus de choses. On est à nouveau dans la crête que tu disais tout à l'heure, Gaëtan, sur Weber. On peut la faire aussi Hamilton.
Ah oui, bien sûr.
Il l'attaque quasiment pas, Rosberg. Il pourrait l'attaquer, il pourrait foncer, mais il peut pas parce que son coéquipier, c'est parfaitement compréhensible que, à Monaco, t'attaques pas, enfin, pour moi, c'est compréhensible que t'attaques pas ton coéquipier.
Il y a peut-être aussi un rendu par rapport à ce qui s'est passé en Malaisie.
Oh, je pense pas.
Bah, moi, c'est pour, même en Malaisie, j'avais fait mon top 10, je l'ai, en fait, personnellement, que ce soit Monaco ou pas, la bataille, surtout on en parle au tout début, avant même d'enregistrer, on est qu'au 6e Grand Prix. Pour moi, les consignes d'équipe, ok, Vettel n'a pas respecté, mais, je crois pas que j'avais tapé dessus à l'époque, je l'aurais pu m'en rappeler, mais bref, je pense que voilà quoi, un coéquipier, un minimum, ça reste du sport quoi, faut attaquer. Pour moi, faut attaquer. Si celui qui est derrière pense avoir c'est même pas qu'il pense avoir la meilleure voiture, il sait qu'il a la même voiture, donc il a les capacités d'aller chercher, s'il a les capacités d'y aller, pourquoi se limiter? Après, c'est sûr que oui, si les deux ne jouent pas le championnat, etc., mais voilà quoi.
Mais d'ailleurs, on le voit, hein, dès qu'il est Weber, il est dingue plus incisif et plus actif.
C'est ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'ai mis, je l'ai pas mis sur mon podium Hamilton. Comme j'ai à contrario, enfin je l'ai pas mis sur le podium parce que surtout il a eu beaucoup, enfin comparé à Rosberg, il a eu un moins bon week-end. Donc je l'ai senti dominé et en plus de ça, il a eu un problème avec au tout début du Grand Prix, ce problème avec ses pneus que Rosberg n'a pas eu et voilà quoi. C'est des petits trucs qui ont fait que plus le fait qu'il n'a pas attaqué Rosberg, je l'ai fait descendre. Quoi. Un départ assez gentil aussi.
À la deuxième place. C'est Sébastien Vettel, 1194 points. Là, il y a 40 points d'écart, mais dans les classements, ça a été très très serré entre Vettel et Hamilton. On peut le dire, même à certains moments, Hamilton était devant. Vettel, Dino et moi, on l'a mis deuxième. Gaëtan, tu l'as mis troisième.
Bah, sans la safety car, il peut gagner.
Sans la safety car, il peut gagner.
Avec la safety car correctement mise en place, il gagne. Après, sur la, enfin voilà, sur la logique du week-end, ça, sincèrement, ça serait injuste et mesquin que de le mettre premier au classement du SAV. Voilà, Rosberg mérite amplement sa victoire. Il aurait été cruel qu'il échappe à la victoire à cause de la safety car. Voilà.
Vettel qui est le grand vainqueur au niveau du classement. Je le disais lors du dernier Grand Prix, je crois que c'était pour Raikkonen. Là, c'est pareil. Hein. Au niveau du classement, il ne gagne pas la course, mais au final. Ah, il gagne énormément de points. Il passe peut-être directement à la première place, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Vettel.
Non, bah, il prend pas de risque parce que il sait qu'il est deuxième, il gère sa course et... Voilà quoi.
Ouais, il a suivi, et puis il est pas non plus menacé derrière.
C'est ça. Voilà. Il sait que au cas où il a Weber derrière et qu'il l'attaquera pas et qu'il se laissera pas faire au cas
où. Ah, il sauve son petit péché d'orgueil.
Oui, il se fait engueuler comme à chaque fois.
Voilà, et ça fait encore des articles. Il désobéit. Bah oui, mais en même temps, avant vous faisiez pas d'article pour ça. Maintenant, depuis la Malaisie, dès qu'il va faire un tour contre l'avis de son équipe, vous allez faire un article. Bah.
Ah, mais c'était déjà avant. C'est à cette manière-là,
oui,
c'était
mais ça,
bien
il a
avant.
Toujours eu. Enfin, déjà l'an dernier, c'est son petit péché mignon. Il aime faire ça. Il aimerait à la fin qu'il est plus rapide. Même si on sait que ça, c'est bon, aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça dépend des pneus, de l'état de fraîcheur, des enjeux en course. Enfin voilà, aujourd'hui, le tour le plus rapide en course ne veut strictement rien dire.
Bah, je pense que c'est une ligne de plus dans les tablettes. Hein. Tout simplement, c'est juste pour dire je gagne pas ou je gagne et en plus j'ai ça. Quoi.
Ouais, voilà.
C'est
il est déjà
c'est
en train de réfléchir à ça, c'est dingue.
Ah, c'est le beurre dans les épinards. Hein. Franchement, hein, je pense que il y réfléchit depuis tout petit, quoi. Hein. Il était endoctriné là-dedans, quoi. Même si, voilà, c'est un champion. C'est clairement un champion.
Première place, bien évidemment, c'est Nico Rosberg, 2154 points. On l'a tous les trois mis premier. Premier pour son dimanche, mais aussi dire pour son samedi et pour son jeudi. Enfin, il a été princier, parce qu'on est à Monaco.
30 ans après son père.
Oui.
Ouais, c'est joli. Et même, il est un peu chez lui à Monaco, un peu comme Massa. Enfin, il y habite.
Il a toujours raconté que quand il allait à l'école, quand il était gamin à Monaco, sa mère conduisait à l'école et il empruntait les roues du circuit, quoi. Enfin, voilà. Il a gagné sur le chemin qu'il empruntait pour aller à l'école quand il était gamin, quoi.
C'est une victoire à domicile. Tout petit. Il a habité à Monaco.
C'est ça.
D'ailleurs, on lui ressort à chaque fois, faut le dire.
Et à chaque fois, il ressort la même anecdote. Cette année, elle a une saveur particulière.
Moi, je l'ai aussi mis premier pour l'ensemble de sa saison, en fait. J'avais envie qu'il réagisse après le coup de Malaisie. J'avais envie qu'il réagisse, il a réagi et il a très bien réagi et voilà quoi, très bonne saison, très bon début de saison et deuxième victoire donc c'est bien.
Moi pour moi sincèrement, il est en train de je me fâche avec des gens. Comment je vais réussir à dire ça élégamment? Il est en train de battre Hamilton.
Ah, clairement.
Mais vraiment en train de battre Hamilton depuis le début de saison.
Hamilton, il arrive dans les lits, que Rosberg, il la connaît et tout ça.
Oui, mais bon, en face, c'est quand même un champion du monde. C'est quand même un mec qui a battu Alonso sans avoir fait de Formule 1 avant. Donc, voilà.
On a beaucoup tapé sur Rosberg, quoi. Hein,
C'est-à-dire que, encore une fois, si c'est valable en 2007, quand on dit « Ah là là, c'est formidable, il arrive à battre Alonso sans même avoir vraiment vécu la Formule 1 et compagnie », théoriquement, battre Rosberg, même s'il connaît pas l'équipe, encore, connaît pas l'équipe, ça reste quand même Mercedes, hein. Il a quand même des liens avec Mercedes. Voilà, c'est quand même significatif. Alors après, effectivement, il y a un moment donné où il va peut-être imposer sa patte, mais force est de constater que pour le moment, en ce début de saison, Lewis Hamilton n'a pas pris l'ascendant et que ça rend donc son acclimatation future un peu plus difficile. Contrairement à Alonso qui arrive chez Ferrari et qui très rapidement met la pâtée à Massa, là, Hamilton, il va pas avoir cette marge de manœuvre de dire, vous avez vu, depuis le début de saison, il y a que moi qui existe dans l'équipe. Là, non, il y en a un deuxième, donc il va devoir se faire sa place
à côté de Rosberg et non pas au-dessus ou sur Rosberg ou partout dans l'équipe.
Donc c'est on sait qu'il aime pas ça. On sait qu'il aime pas ça, Hamilton, de se batailler pour avoir son équipe. Hein. Enfin, je me rappelle avec Alonso. Avec Alonso, il avait l'équipe avec lui et c'est Alonso qui essaie de venir qui était venu sur ses terres. Là, il est en terre inconnue, enfin en terre inconnue entre guillemets, et il a un traitement égal. Malgré un petit avantage, et il a pas profité de cet avantage. Je pense qu'après la Malaisie, il gagne cours, ou même il se qualifie devant Rosberg. Ouais, ça relance le truc, ça prouve que on lui a donné un avantage face à son coéquipier pour quelque chose. Tandis que là, non,
Mais c'est ça la force, c'est ce qui est beau dans la victoire de Rosberg et de manière générale depuis trois courses dans ce qu'il fait notamment en qualification, c'est que alors que moi le premier je disais voilà, s'il réagit pas en piste, c'est foutu pour lui parce que Hamilton va prendre l'ascendant psychologique et l'ascendant en termes justement d'espace dans l'équipe parce que c'est lui qui aura le plus de points que Pani. Aujourd'hui, Rosberg est en train de rééquilibrer la balance en termes comptables, mais aussi, même en plus, il est en train de faire peser la balance de son côté en termes comptables, trois pole positions, une victoire. Voilà, certes Hamilton a fait deux podiums, mais bon, il y a trois propositions,
victoire,
une victoire pour
Rosberg. Bon, on ne sait pas comment va être le reste de la saison, surtout l'affaire qu'il y a eu, mais il n'est pas impossible que ça soit la seule de la saison.
Oui.
Et encore une victoire, comme on l'a dit avant, qui n'est pas, enfin, même si on connaît pas la suite, mais qui n'est pas entaché par ce scandale, parce qu'on savait très bien, bien avant. Donc voilà, donc en gros, c'est, on peut pas lui enlever, quoi.
Et puis une victoire à Monaco, c'est pas une victoire n'importe
Monaco,
où, quoi.
Oui.
C'est Monaco, quoi. C'est vrai que le titre sur Fan F1, c'était Rosberg parmi les grands, de Monaco. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, ouais, Rosberg est pas un grand, ou je sais pas quoi, enfin. Oui, mais il est là quand même, il y a quand même son nom à côté de Hill, de Prost, de Senna, à côté des plus grands. C'est pas n'importe qui gagne à Monaco. C'est des très bons pilotes.
À Monaco, c'est soit pas n'importe qui, soit n'importe qui. C'est
oui,
tout ou rien.
Voilà. voilà, à Monaco, en plus, il a très rarement rougi à Monaco. Il a toujours été extrêmement performant. Déjà,
mais il est pas
Williams,
mal sur les circuits
urbains. Extrêmement performant à Monaco.
Voilà, d'ailleurs, j'ai le truc. S'il y a peut-être un truc qui tient de son père, c'est que je crois que sur les 5 ou 6 victoires qu'a eu son père, il en a eu les 2/3 sur des circuits urbains. Ouais. Et c'est vrai que Nico, pareil, on l'a vu à Singapour, on le voit à Monaco, c'est pareil, les circuits urbains, ça lui réussit.
Ça le réussit.
Bah, c'est sa troisième victoire, parce que théoriquement, pour moi, il est vainqueur du Grand Prix de Singapour.
Et il a réussi quand même un tour de force incroyable, un tour de magie, mais de fou. Il a quand même réussi à escamoter l'interview d'après les podiums.
Oui.
Ah, j'ai vu en différé, enfin à la rediff du lundi matin, ils ont coupé tout de suite après.
Bah en fait, c'est-à-dire que les commentateurs ont dit que l'interview serait faite par Prost, et en fait, ils sont allés directement en salle de conférence de presse. Parce que voilà, sur la grille, c'était un peu.
C'est-à-dire qu'il y a le podium et tout, et là, bon, il y a ces jolis moments qu'on voit, et ça, c'est le bon côté, c'est que comme le podium, c'est la loge princière, pour une fois, ils sont très près de leur équipe, et il l'a bien fêté avec son équipe, ça, il n'y a pas de souci. On va passer au classement. Et, bon, j'ai fait le classement là, va vite, mais il devrait être bon. Apparemment, Kimi Räikkönen est toujours en tête du classement du SAV, avec 92 points, devant Vettel, 90, et Alonso, 86. Notez que derrière, il y a Massa 65, Hamilton 61 et Rosberg 57.
Massa 4e,
plus pour longtemps.
Au niveau des équipes, Ferrari 151, Red Bull 132, Mercedes 118, Lotus 116. Et Force India à 36, soit devant McLaren, qui était à 26.
Ah d'ailleurs, ils ont repris des points à McLaren. Ken.
Dans l'autre classement, tu veux dire ?
Ouais, dans l'autre classement. Ah, dans le vrai, ah, dans celui
dans
qui
l'autre
compte.
Classement.
Voilà.
Parce que dans l'autre classement, c'est Vettel qui est devant 107 points, devant Räikkönen 86, donc 21 points d'avance, Alonso 78 points, et Hamilton est à 62. Chez les constructeurs, Red Bull 164, Ferrari 123, Lotus 112, Mercedes 109, et en effet, Force India est à 44 et McLaren à 37. On va évoquer maintenant les faits marquants. La semaine dernière, on vous avait demandé quel était le fait marquant du Grand Prix d'Espagne, je dis la semaine dernière, le Grand Prix dernier, est arrivé 3e avec 13 votes. Un an après, Williams est retombé au fond du trou. Ils n'en sont d'ailleurs pas encore ressortis.
Non.
2e, 37 votes. Une première ligne Mercedes qui tourne encore en eau de boudin.
Ça, c'est moi, ça.
Comme quoi, les semaines ne se suivent pas. Hein. Et, premier, 48 votes. Alonso, Royal en Espagne, 48,98%. Ça, c'était moi. C'était pas original, mais ça a gagné.
Donc, du coup, c'est Gaëtan qui commence.
Oh putain, j'y avais pas réfléchi. Le fait marquant. Pérez, jamais 203. Je dirais ça.
Ou toujours 2 sans 3.
Ouais, ouais, toujours 2 sans 3. C'est vrai, c'est mieux formulé.
Toujours ou jamais? Toujours?
Non, jamais 2 sans 3.
Eh bien, dis-nous.
Attention, je suis dit, t'es prêt?
Non, oh, tu vas encore faire un truc super long, toi.
Non. Charlène, virgule, elle est de retour à Monaco. Et les résultats prouveront, je dis que c'est un fait très marquant de ce Grand Prix. Voire le fait marquant de ce Grand Prix.
C'est tes fans qui vont voter pour ce fait marquant. C'est un test de popularité.
Et là, je fais 2%.
Point ou point d'exclamation à la fin?
Point d'exclamation. Ah, j'ai dit, tu as toujours le don pour apporter une petite touche.
Ah non, c'était pour, par rapport à ton ton, hein, voilà.
Oui.
Est-ce que ça serait plus façon Le Monde Libération ou Hola Closer? Voilà. T'as fait ton choix.
À moi, ce serait 3 petits points dans ce cas, hein, pour dire, bah putain, jamais 203, quoi.
Et toi, Shinji? Ouvre le guillemet. Kimi, t'es rétro!
J'ai envie de mettre Mercedes gagne comme prévu. 3 petits points.
Ouais, c'est Mercedes gagne 3 petits points comme prévu, c'est ça?
Non, je pensais plutôt mettre les 3 petits points à la fin, mais oui, ça peut le faire aussi, merci.
Non, mais ce que je te demande, c'est pour mesurer tes chances de victoire.
Donc, cette semaine, pour le fait marquant, vous aurez le choix entre Perez, jamais 203, Charlène, elle est de retour à Monaco, bien, Mercedes gagne, comme prévu. Passons au concours.
Ouais,
concours top pas position.
Tout à fait.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Pas Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et rappelons-le, cette semaine, il y a un beau cadeau.
Un magnifique cadeau. C'est une réplique à l'échelle 1/2 du casque de Jenson Button, ancien vainqueur du Grand Prix de Monaco.
Mais pas avec McLaren.
Non, avec Brown.
Et rappelons la question.
Ah merde, c'était quoi la question déjà?
Nous parlions de Pastor Maldonado. Pastor Maldonado qui a fait ses 5 meilleurs résultats en 2012, dans 5 Grands Prix différents, forcément. Donc, 5 villes différentes. Et la question, c'était de savoir quelles lettres avaient en commun les 5 villes concernées. Et il faut se rappeler que Pastor Maldonado a fini premier au Grand Prix d'Espagne, à Barcelone. Il a fini 8e au Grand Prix de Chine, à Shanghai. Il a fini 8e aussi au Grand Prix du Japon à Suzuka, 5e à Abu Dhabi, et 9e au Grand Prix des États-Unis à Austin. Et donc la lettre en commun, c'était la lettre A.
Ah, j'aurais dit le K.
C'est vrai qu'il y a un K. Il y en a un. Et Dinos, devine combien il y a eu de réponses cette semaine?
4.
Ah non.
5.
24.
7.
Non.
9.
Non.
2.
Une seule?
Non.
Une.
Non.
Zéro.
Non.
Je donne ma langue au chat.
10.
Oh la vache. 10 bonnes.
10 bonnes.
Oh putain. Cette émission ne va jamais finir.
Est-ce que tu es prêt?
Oui, je suis prêt.
On est en mode concentration maximale. Il y a un beau cadeau cette semaine. Première question. Avec quel type de cylindrée y a-t-il eu le plus de champions du monde pilotes et combien?
Oh. Ah, elle est pas mal en fait.
Deuxième question. Pendant la course de Monaco, quel pilote a eu la casse d'aileron avant la plus chère de l'histoire?
Ouais, non, ça on s'en fout. Ça, je l'élimine direct.
Troisième question. Quel chiffre obtient-on quand on divise tous les points des pilotes anglais qui étaient dans le top 10 du championnat entre 95 et 97 par tous les points de Jenson Button et de Lewis Hamilton de 2009 à 2012, tout cela multiplié par les points de Johnny Herbert en 1999?
Alors, c'est bien de s'inspirer de ce qu'ont fait vos petits prédécesseurs, mais pas d'un Grand Prix sur l'autre, donc non. Ça ressemble trop à la mécanique de la précédente question, non?
Question suivante. Quel est le pilote à avoir détenu le record du plus grand nombre de victoires le plus longtemps et pendant combien de jours? Il faut tenir en compte des années bissextiles et bien évidemment, deux pilotes peuvent co-détenir le record.
Ouais.
Ensuite, on parle de Lotus et de Red Bull pour Kimi Raikkonen l'année prochaine. Mais pour quelle équipe devrait-il piloter afin de pouvoir se faire un cocktail Walking Dead? Le Walking Dead comprend du whisky, du whiskey, de la vodka et de la bière.
Je comprends même pas cette question.
C'est une histoire de sponsor.
Ah bah oui, bah c'est facile. Donc non.
Ensuite, Quel est le nom de l'arrêt de bus situé entre les virages du Loves et du Portier sur le circuit de Monaco?
Ah, c'est pas mal ça.
Voilà, entre le Loves et le Portier, rappelons, c'est le virage juste avant le tunnel, il y a un arrêt de bus.
Alors même arrêter d'être un peu le numéro de la ligne ou voilà qu'est-ce quel est le numéro des lignes qui passent par cet arrêt de bus pour entrer dans le genre.
Il peut y en avoir beaucoup. Hein.
Ouais, donc voilà. T'aurais forcé à chercher le numéro de la ligne sur le site de
la ville de Monaco.
Des transports urbains à Monaco et tout, ouais, c'était... J'aime bien.
Ensuite, quel Grand Prix du Canada suis-je? Si on part en avant et on s'en va dans le passé, Didier Pironi franchit la ligne du Grand Prix du Canada en première position, mais avec une minute de pénalité pour départ anticipé. Donc il termine premier, mais en fait, il termine troisième à la troisième place, à la 19 secondes du vainqueur. Piquet remporte la position de tête, le vainqueur signe la 135e victoire d'un moteur Ford Cosworth et la 10e de Williams, mais il devient surtout champion du monde à l'issue de la course.
Non. Il y a trop de détails et trop facile cette question.
Ensuite, le 26 mai à Monaco, vous avez pu suivre la course de F1, mais aussi visiter une exposition d'un peintre cubain. Qui est ce peintre?
Ouais.
Parmi les pilotes qui seront alignés au Grand Prix du Canada 2013, combien se sont déjà payés le mur Bienvenue au Québec au volant d'une Formule 1?
Il y a une source?
Il y a une source.
Une source fiable?
Bah, c'est Wikipédia.
Ah ouais, bah, moyen fiable alors. Ouais, ça va être galère ça.
Ensuite, dernière question. Suite à la mort du pilote canadien Gilles Villeneuve, le circuit a été rebaptisé à son nom. Quel autre hommage lui est rendu sur ce tracé?
C'est pas mal ça.
Sur Dino, n'oublie pas, c'est ton choix, c'est l'heure du choix. Tu vas rendre heureux quelqu'un.
Alors je vais préqualifier trois questions. La première sur les motoristes, c'est ça?
La toute première donc, ouais.
Nécessite un peu de recherche. J'aime bien celle sur l'arrêt de bus, même si je trouve qu'elle aurait peut-être mérité d'être un peu plus profonde cette question. Et j'aime bien la dernière qui est parce que j'ai pas la réponse en fait. Pour le coup, je vais prendre la dernière alors.
Oh.
Parce que je vois pas la réponse. Enfin, j'imagine une réponse, mais il faudrait que je vérifie.
Donc je répète la question que tu choisis. Suite à la mort du pilote canadien Gilles Villeneuve, le circuit a été rebaptisé à son nom. Quel autre hommage lui est rendu sur ce tracé? Et donc c'est là que tu choisis. Est-ce que c'est ton ultime bafouille, pour rester dans le style québécois?
J'ai un doute, parce que... C'est parce que j'ai pas la réponse. C'est la réponse qui va faire que... Parce que j'ai des idées et en même temps j'ai pas d'idées et. Donc on va oublier cette question. Parce que. Non, c'est pas. C'est... Là pour le coup c'est trop facile. C'est-à-dire que pour moi ça fait partie du fait que ça s'appelle le circuit. Allez, l'arrêt de bus. Parce que j'aime bien l'axe de la question.
Donc, quel est le nom de l'arrêt de bus situé entre les virages du Loves et du Portier sur le circuit de Monaco?
Ouais.
Eh bien, c'est Steve.
Oh, il va être content.
Bravo Steve. Steve, tu remportes un réplica de casque.
Tu gagnes l'un des deux plus beaux cadeaux de la saison. Et tu permets donc à des gens de concourir pour un cadeau.
Steve, qui avait déjà gagné à Bahreïn. Plus.
Ah, c'était quoi le cadeau à Bahreïn? Alors, à Bahreïn,
c'était le cadre photo Ayrton
Senna. Ah oui.
Ouh. Il va se faire un beau petit truc.
Vu comme t'es parti, Steve,
joue au loto.
Je sens que tu vas aussi gagner en Belgique. Je sens que tu vas aussi gagner aux États-Unis, c'est pas mal. Et puis je pense que tu vas gagner à la fin de l'année le casque Alain Prost d'une valeur de 500 € à réplique taille réelle, celui-ci. Et donc, en attendant, bravo pour cette magnifique question et intrigante question. Qui est Shinji, d'ailleurs? Peux-tu la rappeler?
Quel est le nom de l'arrêt de bus situé entre les virages du Loves et du Portier sur le circuit de Monaco?
Et donc, pour répondre,
il faut envoyer la réponse à concours@savf1.fr avec la réponse, en n'oublions pas votre question. Sur le domaine de la F1, c'est large, vous n'êtes pas obligé de faire forcément sur le Grand Prix en cours ou le prochain Grand Prix. Vous voyez même que c'est très très large, avec sa réponse, bien évidemment. Ne vous trompez pas, l'envoyez bien à concours@savf1 pour qu'il n'y ait pas de soucis.
Et pourquoi vont-ils se battre? Shinji, te rappelles-tu?
Eh bien, écoute, en ces temps actuels, c'est un cadeau qui va être très utile, il me semble.
Oui, C'est-à-dire que, à l'origine, c'est un cadeau qu'on avait choisi en disant le Canada a une certaine réputation, surtout à ce moment-là de la saison. Et en fait, on se rend compte que, visiblement, la France n'a pas non plus envie à cette réputation et que ça sera fort, fort utile aussi pour un Français que d'avoir ce cadeau. Qui plus est pour un Français fan de Jules Bianchi.
Oui. Est-ce que c'est un cadeau Marussia?
Là, c'est pareil, c'est un beau cadeau, hein, puisque c'est une veste de pluie Marussia, homme ou femme ou enfant, en fonction de ce que vous voudrez. Voilà, c'est l'un des trois au choix, mais seulement un. Rappelons qu'à chaque fois, vous gagnez qu'un exemplaire du cadeau, qu'il n'y a pas d'ex-aequo, que
alors,
voilà,
c'est la des gros crevards. C'est la version noir et rouge. Hein.
Oui, c'est la version de l'an dernier.
De l'an dernier, mais qui est plus dans la rue, parce que ça fait très Ferrari rouge et blanc cette année, mais noir et rouge, franchement, c'est très portable en plus.
Ouais, ça fait très très Marussia.
C'est mon Ferrari. Et moins Ferrari.
Et on vous le cache pas, on vous a mis ce cadeau-là parce que l'avantage de chez Marussia, c'est comme c'est pas cher, on peut mettre des cadeaux un peu, voilà, un vêtement de pluie. Chez Marussia, c'est entre 36 ou 30 euros.
Voilà.
Voilà. Alors que chez Mercedes, c'est 400 euros. Voilà. Oh, pas loin.
Et 850 euros la casquette chez Ferrari. Oh, pour le coup. Alors les autres questions. Il y avait la question de Thibaut. Quel type de cylindre a eu le plus de champions du monde?
Bah c'est le V8.
Le V8. Et vous avez une idée du nombre de titres?
Bah, ça doit être 23, 24.
Ah t'es pas loin, c'est 27.
Parce qu'il y a l'époque Cosworth.
Alors j'ai pas les dates dans le détail, mais j'ai le nombre de titres. Alors ça va, il y a eu 64 champions du monde, mais 65 moteurs, car Ascari a utilisé en 52 une voiture avec un V12 et une autre avec un 4 cylindres en ligne.
Ouais.
Le V10, c'est 15 sacres, le V6, 7, le 4 cylindres en ligne, 5, le 8 cylindres en ligne, 4, le 12 cylindres en ligne, 3, le 6 cylindres en ligne, 2, et le V12, 2 sacres. C'est finalement assez varié.
Ouais. Mais c'est une belle question, sincèrement.
Ensuite, on a Benjamin qui nous avait parlé de la casse d'aileron avant la plus chère. C'est bien évidemment celle de Christian Klien sur Jaguar, hein, donc qui était sponsorisée par la société Steinmetz, qui avait mis en fait un diamant à l'avant des deux Jaguars. Et le
zirconium.
Voilà. Apparemment, ça leur a quand même coûté 200 000 livres.
Ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est un coup de com', ça.
En effet, il s'est pris un rail et on n'aurait jamais retrouvé le diamant.
Ouais, il est dans sa poche, quoi.
C'est ça, quand on se prend un rail derrière, on perd la mémoire.
Et Gaëtan qui renifle juste derrière.
Alors, on a ensuite Mathis qui avait mis la question des systèmes de calcul. Donc, les pilotes ayant été dans le top 10 de 95 à 97, il y a démonie.
Non, mais c'est chiant, ça. Enfin, non, mais c'est chiant.
En gros, au final, on trouve 3,83.
Oui, mais on se rappelle plus la question.
Il y a l'idée dans la question, mais non.
Elle est vraiment longue. Elle est vraiment.
Alors, ensuite, il y a la question du record du plus grand nombre de victoires. Et en fait, ils sont deux.
Le record du plus grand nombre de victoires.
La question c'était quel est le pilote à avoir détenu le record du plus grand nombre de victoires le plus longtemps et pendant combien de jours?
Ah oui, bah c'est Stewart.
Alors Stewart et Prost sont à égalité avec 5222 jours chacun.
Ils sont tous les deux ex aequo? Oh c'est dingue.
Donc alors sachant que c'est pour ça qu'il le précise bien, c'est que bien évidemment t'as un détenteur du record, que t'as quelqu'un qui le bat, mais forcément pendant un moment ils sont à égalité, donc les deux ont le record avant qu'il le pilote B entre guillemets le dépasse, et dans ce cas-là mais non le pilote A perd son record, donc ça c'est pour ça qu'il y a des dates qui se croisent.
Oui, c'est, pour le coup, c'est une question piégeuse.
Elle était
piégeuse.
Les dates, hein, donc on a Fangio avec son début de record en septembre 54 jusqu'en 68, 4866 jours.
Non, le premier, c'est Farina.
Oui, mais disons qu'en nombre notable, quoi. Clark, il l'a eu d'octobre 67, évidemment, ça se croise, à juillet 73, ça fait 2107 jours.
Ça, c'est 25 victoires?
Oui. Parce que, de toute façon, jusqu'à Stewart, je crois que ça fait 24, 25, 26, et c'est après Prost que ça explose. Stewart, donc, du 3 juin 73 au 20 septembre 87, ça fait 5222. Prost, du 17 mai 87 au 2 septembre 2001, 5222. Et alors, Schumacher, ça a commencé le 19 août 2001. Alors à aujourd'hui, il faut savoir qu'il a envoyé le mail vendredi, c'était 4295. Donc on n'est pas loin, et je crois que j'avais calculé, ça nous amène à décembre 2016, ou 2015, non, septembre 2015. Donc il tiendra le record, parce que je crois que le plus proche c'est Alonso, et même s'il gagnait toutes les courses...
Il n'y a pas 50 Grands Prix.
Voilà. Donc elle était très piégeuse. La question de Victor, c'était sur Kimi Raikkonen, et donc le cocktail Walking Dead... Donc c'était une référence au sponsor, et en fait l'équipe idéale,
Forcidia.
C'est Force India,
bah ouais.
Hein, puisque donc Force India est sponsorisé par Vladivar qui est de la vodka, par Kingfisher qui est de la bière, par White & Mackay qui est du whisky, par United Breweries qui est aussi de la bière, et Royal Challenge du whisky. Du whisky. Il y a que des marques d'alcool.
Tous ces sponsors là, c'est que des marques de Vijay Mallya.
Oui. Ensuite donc c'était une question de DP sur quel Grand Prix du Canada suis-je? Est-ce que vous savez quel grand... Est-ce que les indices vous ont donné une idée?
C'est pas 80... 82?
Alors, c'est 80.
Donc, c'est Alan Jones.
Voilà, c'est Alan Jones qui remporte la course devant Carlos Reutemann et Didier Pironi. Didier Pironi qui avait passé la ligne devant, mais voilà, pénalisé d'une minute. Pole position de Nelson Piquet, qui sera victime d'une casse moteur au 23e tour. Et donc, Alan Jones remporte le titre, et c'était la dernière épreuve, 80.
Mais sincèrement, c'est une bonne idée de question, mais il y avait trop de détails.
Le Grand Prix est marqué par de nombreux crashs, un au départ, mais surtout celui de Jean-Pierre Jabouille, qui se brisa les deux jambes lors d'un accident au 25e tour. Adelin, qui a posé la question sur le peintre cubain? Hein, il y avait donc une exposition sur Rulio Larraz, qui est un peintre et sculpteur cubain. Je vais pas m'étendre, parce que je suis pas un spécialiste en art, hein, donc je sais pas qui c'est. Mais voilà, il y a une expo. Si vous y étiez, peut-être que l'expo est encore là. Il y a une expo sur Rulio Larraz en ce moment à Monaco.
Je tiens d'ailleurs à m'excuser, parce qu'il semblerait que je me sois trompé. Notre ami Warouz, l'artiste urbain qui était à Barcelone, apparemment il était dans le paddock, et pas dans le truc de Burn. Enfin, le truc de Burn avait lieu dans le paddock, et pas de... Je me suis fait engueuler par Antoine Arlot. Et... M'excuse Antoine, parce qu'Antoine, du coup, il est parti ailleurs et il a raté. Voilà. Allô, Shinji?
Oui, non, mais parce que... là, je reprends les trucs d'Adrien, mais Adrien, en fait, j'ai des copies de chaque fois, de tout ce qu'il m'a envoyé, donc faut que je retrouve le haut du mail. Ah oui, lui, c'était la question sur combien... quel pilote qui seront alignés au Grand Prix du Canada, combien se sont déjà payés le mur Bienvenue au Québec?
Voir ça.
Lui, il indiquait Jenson Button en 2005, Vettel en 2001, Maldonado en 2012. Sachant qu'après, si tu prends Wikipédia, il y a Bruno Senna, Kobayashi, Montoya.
Ouais, non, mais après, c'est toujours une question de source, quoi. Il y a toujours le mec qui viendra avec la preuve que, ouais, là, il s'était gaufré en essai libre 1. Hein.
Et donc la question de Clément, c'était la question donc sur l'hommage à Gilles Villeneuve. Donc bien évidemment, on a donné son nom au circuit. Mais il y a aussi un petit détail, c'est sur la ligne de départ arrivée. Voilà, il y a l'inscription « Salut Gilles ». C'est souvent pris d'ailleurs en illustration du Grand Prix du Canada.
Moi je pensais, parce que le circuit se trouve dans le parc Jean Drapeau, et je sais qu'il y a des allées et compagnie, donc je me suis dit peut-être qu'il y a une allée qui s'appelle Gilles Villeneuve, où il y a une statue, mais non. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir la réponse, j'avais un doute. Si ça avait été une allée, là pour le coup, j'aurais pris cette question-là. C'est pour bien foutre la rage au mec.
Donc c'est Clément qui a... qu'est-ce que tu...
Non, c'est Steve.
C'est Steve qui a gagné. C'est bien, j'ai déjà ton adresse, Steve. J'aurais pas besoin de te renvoyer un mail et puis...
Voilà.
Il y a pas de taille, il y a rien, c'est juste le casque.
N'essaie que de le mettre.
Oui, tu vas avoir du mal, oui.
Même en enfant, ça rentre.
Non.
C'est un demi... Donc on vous rappelle une dernière fois la question, en tout cas pour cette émission. Quel est le nom de l'arrêt de bus situé entre les virages du Loves et du Portier sur le circuit de Monaco? Allez. On arrive plus ou moins à la fin de cette émission, on a rappelé l'adresse du concours, on vous rappelle si vous avez des questions au répondeur, l'adresse c'est répondeur@savf1.fr, ou bien le module audio sur le site savf1.fr si vous voulez nous parler. Si vous souhaitez participer à l'émission, l'adresse c'est contact@savf1.fr. Dino, est-ce qu'on a de la place?
Oui, il y a de la place. Même à partir du Grand Prix du Canada, vous pouvez essayer. On a déjà quelqu'un dans les tuyaux, mais il suffirait que ça ne puisse pas se faire pour des questions de compatibilité horaire, puisque vous l'aurez compris, c'est un Québécois. Donc la place se libérerait, donc n'hésitez pas à postuler. Et pour tous les Grands Prix qui viennent après, à partir de la Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, magnifique Grand Prix. Et tout ce qu'à la fin de saison, c'est du bois. Et on tient notre série d'invités différents cette saison. Qui n'a plus aucun intérêt, parce qu'on a déjà battu le record l'an dernier et qu'on le battra pas cette année, mais bon.
Et donc, justement, dans 2 semaines, on est au Canada. Vous avez des pronostics pour ce Grand Prix ?
Canada,
Alonso.
Ben, ça collerait bien Ferrari parce que un coup de mou, un coup de rebien.
Ouais, puis faut un bon moteur, faut une bonne, potentiellement une bonne tenue des pneus. Ça sera pas la même soupe qu'à Monaco. L'allusion des pneus risque d'être quand même assez intéressante. Donc, ouais, je vois bien Ferrari. Pour moi, ça jouera entre Ferrari et Lotus et je pense que.
Ou voir Mercedes.
Oui, enfin.
Ah oui, bah oui, oui. Ils ont fait 100 km avec les nouveaux pneus, alors.
Ouais, je suis comme toi, Alonso ou Raikkonen, ça paraît en effet.
On n'ose même pas dire Massa.
Moi, j'aimerais bien quand même Massa, ça m'a fait plaisir de le voir sur le podium.
Oui, ça nous a fait plaisir de le voir tout court, ce week-end, bon.
Gaëtan, c'est l'heure du défi, est-ce que tu es prêt? Attention, ça a changé par rapport à l'an dernier.
Putain, je me rappelle plus du tout. C'est quoi ce truc?
Ça m'énerve les gens qui lisent pas les mails au bout, tu vois. Tu te fais chier, tu fais un mail. Lu. Tu leur dis dans le mail, attention. Par rapport à l'an dernier,
le défi, je l'ai préparé, je l'ai là sous les yeux. Oh, ah non, je comprenais pas ce que je voulais dire par défi, oui, les 7 choses à faire, oui, je les ai.
Bah, c'était un défi, il faut que vous le trouviez. C'est votre défi.
Donc, rappelons, hein, la thématique, c'est 7 choses à faire pour un total de 40€, plus ou moins, soit le prix d'un abonnement à Canal+, si vous payez le tarif plein.
Alors, premièrement, on peut simplement se reposer un petit peu et tout d'un coup, je sais pas, on rêve de partir en vacances, alors on se dit, il faut que j'organise tout ça. Donc ça, c'est la première chose à faire, juste se reposer et rêver. Ça vous fait sortir de chez vous, mais comme vous êtes en France, il pleut. Donc vous achetez un parapluie parce que vous n'êtes pas du tout organisé et vous n'en avez pas chez vous, donc ça coûte 13€. Ensuite, vous prenez le bus. Un ticket, c'est 1,25€. C'est la troisième chose. Quatrième chose, vous arrivez à la bibliothèque municipale, donc pour pas payer Internet, vous vous connectez, vous achetez pour vos vacances un maillot de bain à 5€ sur le site de Decathlon. Vous vous dites que vous allez retourner chez vous. Donc vous reprenez un billet de bus à 1,25€ pour le retour.
Oh, parce que tu mets plus d'une heure.
Ah oui, facile.
Moi, je mets moins d'une heure.
Tu mets moins d'une heure, toi ?
Tu prends ton temps quand même à la bibliothèque. Hein.
Ah, c'est la bibliothèque universitaire.
Ouais, c'est vrai.
Il y a du monde, tu sais, tu papotes.
Ouais.
Bon, au pire, tu vois, à la bibliothèque universitaire, tu prends un café à 50 centimes et tu lâcheras moins de pourboire quand t'arrêtes en manger en rentrant, quoi.
Ouais, voilà.
Genre, tu prends 2 pinces de crabes, ça fait un total d'1,90€. Tu prends 3 beignets de crevettes, ça fait 2,70€. Plus 2€ de printemps à 4€ le tout, et tu laisses plus 1,90€ de pouvoir vu que tu viens de prendre un café. Donc tu laisses.
Gaëtan nous connaît son quotidien. Tous les jours, il prend le bus pour aller à la fac, pour acheter un maillot de bain, puis le soir il rentre et prend des pinces de crabe. Faut savoir que nous on a connu la fac où, en redescendant, on s'arrêtait prendre des petits. C'était quoi, tu dis?
Oui,
les petits pains chinois là, les petits réchauffés au micro-ondes.
Cuisson traditionnelle.
C'est très important.
C'est cuisson traditionnelle au micro-ondes.
Ah bah aujourd'hui en Chine, enfin au Japon, c'est traditionnel hein, la micro-ondes.
Puis donc tu laisses plus 1,90€ de pouvoir, tu laisses 1,40€. Et en 7ème chose, en rentrant chez toi, tu passes devant chez Fleury, il te reste 9€ et t'achètes 3 roses à ta copine.
Voilà, c'est une journée bien chargée.
Et donc, si vous êtes célibataire, vous avez 9€ gratos.
Vous payez un bouquet à 9 balles.
Ça, c'est sans doute, c'est le type de truc qui te dit, en fait, c'est pas mal, Canal+. Moi, je trouve ça bien. Ça vaut que, mine de rien, ça relativise le prix de Canal+. Voilà. Avec 40€, vous pouvez faire tout ce qu'il vient de faire, et vous n'avez pas la F1. Alors qu'avec 40€, vous pouvez acheter Canal+, et vous avez la F1.
Mais t'as pas de meuf.
Bon, tu la mets devant la F1, puis c'est bon, ça meuble.
Ah, en parlant de ça, ma copine a regardé une qualification en entière avec moi, et un grand prix avec moi, et c'est super plaisant. Donc, vous avez une copine, j'espère que vous aurez la chance.
Ah, d'horreur.
Franchement, c'est vraiment sympa.
Une femme devant la F1. Ah, le truc horrible.
Tu vas te faire taper, toi.
Mais justement, c'est ce que je veux, j'ai dit. Vas-y, frappe-moi, Jennifer. Ah, oui.
Pendant les qualifs, elle me faisait des trucs genre, tu m'as déjà dit ce que c'était la petite lumière rouge qui clignotait. Pourquoi ça clignote? Bah, parce qu'ils se voient pas forcément avec la pluie, donc c'est une question de sécurité.
Ah d'accord. Et le P à côté des noms, c'est quoi? Et plein de questions comme ça, et c'est vraiment marrant.
Pape,
et
c'est
très
bien,
plaisant.
Comme ça t'as l'air intelligent alors que t'es juste un con, t'es, qui connaît la F1, c'est tout.
Totalement, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Ouais, mais du coup tu savoures pas.
C'est différent.
Allez, on vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1 et les comptes Twitter des participants du SAV que vous pouvez retrouver sur le site savf1.fr. On vous rappelle comme d'habitude que la F1 sur Internet, c'est sur
fanf1.com, bien sûr.
Parce que le SAV de la F1, c'est
le Ritz des podcasts,
gratuit,
couleur, gratuit, la famille, ta mère en slip, on va en rajouter comme ça à chaque fois.
Ouais.
Barrer les mentions inutiles.
Merci Gaëtan de nous avoir accompagnés.
Merci beaucoup à vous.
Pas de rien, c'est un plaisir.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un mag comme d'habitude.
Espérons.
Où ça va parler de Mercedes, ça va parler de Lotus.
Et là, ça se trouve, il y a une affaire encore plus
grosse. Ah oui, il y a un truc encore plus gros qui va sortir.
Ferrari quitte la F1.
Allez, Mercedes, faites des essais, on s'en fout.
Allez, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Et comme d'habitude, on va se quitter par le proverbe de Dino.
Oui, un proverbe qui avait une saveur de défi, puisque cette année, je me suis lancé le défi personnel de trouver des proverbes du pays qu'on visite, et là vous doutez bien qu'à Monaco les proverbes monégasques ils sont pas très nombreux, et il se trouve que sur les quelques proverbes monégasques que j'ai trouvé, j'en ai trouvé un qui était fort à propos, mais vraiment très fort à propos. C'est le suivant: la vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface. And it's lights out.